Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. Il est 14h30. Merci ma chère Régie, bonjour mon bon Sylvain. Merci à toi de me ramener mon dû. Bonjour à tous, il est 14h30, nous sommes le 26 mars 2019. Vous regardez les questions d'actualité au gouvernement sur Acropolis et j'espère que ça va vous plaire. 15 députés qui posent 15 questions aux membres de notre gouvernement qui y répondent ou qui dodgent. On verra. Et voilà, et on espère que ça va être sympa. Comment vous allez? Et alors, c'est quoi cette caméra
Ah,
bien cadrée?
je me demandais justement s'il fallait que je la recadre, mais t'inquiète pas,
C'est.
moi.
Bah, je. Non, je pense que, à la limite, recadre-la comme ça, tu vois. Je pense que là, c'est
Tu peux
mieux.
ne pas faire mon travail, s'il te plaît, Sylvain, un peu, et je vais essayer de faire.
Ah, c'est n'importe quoi. Salut le chat, j'espère que vous allez bien. Salut Alcanoïde, salut Zotavman, salut Arturus, salut Ricadus
Non, il
Food.
fait
Oula.
Oh là là, il faut pas
Il
s'y
y a un
faire.
tremblement de terre! Il y a un tremblement de terre!
C'est pas. Oh là là, là, là Sylvain, c'est pas ce qu'il faut faire.
Il
Voilà,
sait pas
c'est ça.
faire, hein. On sent
C'est
qu'il a
la
pas
molette,
pratiqué.
voilà, c'est ça. Voilà.
Salut Gérard, salut Salvagraf, salut Nosalia, Piloderman, salut Lady Cassidy, salut Da, salut Lart, salut Dart. 15 députés qui posent 15 questions, ça fait pas 225 questions. Bravo Arthurus, tu l'as, effectivement. Vous imaginez une séance de questions d'actualité au gouvernement avec 225 questions? Et à la fin, il reste qu'un seul député. Oui, c'est un. Merci Persifleur pour ton sub, pour ton 7e mois de resub. Oui, c'est un. Merde, comment s'appelle ce film? Quoi? Battle Royale, non, mais je pensais à. Non, Highlander. Non, c'est pas Highlander, c'est. C'est Highlander, il en restera qu'un avec. Ouais. Ou ils en ont fait un deux. Voilà. Donc voilà, effectivement, on va faire un Battle Royale slash Highlander avec les députés. On pourra faire ça, voir quel ministre meurt après 225 questions. En tout cas, on sait qu'à la fin, il ne restera pas de François s'il y a 225 questions. Oh, tu sais pas, hein, tu sais, on a fait des émissions qui ont duré 6-7 heures, donc. Maintenant on est prêt, hein. Hashtag on est prêt. J'espère que Raphaël a fait son stock de blagues pour la semaine.
Absolument.
Il est prêt, lui aussi.
Ouais, on est prêt.
Ça va déchirer. Ils ont fait une suite dans l'espace, effectivement. Et c'est quel député qui ferait? Je sais pas si tout le monde a la référence, Arcturus, qui est dans le rôle de Christophe Lambert. Si vous connaissez pas, allez voir la chronique de. C'est dans Chroma, je pense. C'est pas
Oui.
dans.
Oui, c'est dans Chroma.
Oui, puisque l'autre, c'est avec des jeux vidéo. La chronique de Chroma, par Karim Debbache et ses acolytes, sur Highlander 2. La suite est magique dans le Nawak, effectivement. Salut le beau VLK, merci pour ton 5e mois de resub, merci à toi. Faites comme le beau VLK et comme Persifleur, donnez des sous à l'arc. À Acropolis, on a besoin de thunes. Bon, alors, de quoi ça a parlé aujourd'hui, selon vous? Quelles sont les questions auxquelles on va avoir droit? Bon, après, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont. Attendez, il manque un truc dans le. Et Benav, merci Benav pour ce sub. C'est bizarre parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, qui se sont déjà sub. Et ça ne dit pas si c'est des resubs ou pas.
Je sais
Bon, je sais
pas.
pas. C'est Kamel Debbiche dans Chroma. C'est Kamel Debbiche et Karim Debbache. Attendez, il me manque le chat histoire de pouvoir vous écrire deux petits messages doux. Donc on va faire ça comme ça. Donc ouais, vous pensez que ça parlait de quoi aujourd'hui? Quelles questions vous aimeriez voir poser? Oula, j'ai une coiffure de premier de la classe là un peu. Environnement avec le bateau qui a coulé, effectivement. Comment il s'appelle le bateau déjà?
Grande America.
Grande America, j'avais classe America en tête. Ce n'est pas la classe américaine. Merci Arcturus pour ce sub. Il y en a qui se sub tous les mois. Eh bien, merci à eux. Merci pour leur soutien continu et régulier. Et notamment, merci à toi pour ce 15e mois de resub, Arcturus. Sûrement de la manifestante blessée, effectivement. Nos paillés, Lady Cassie. Le rapport sur le temps de travail des fonctionnaires, question à tous les coups, c'est possible. Avec en plus la sortie de Gérald Darmanin, je ne sais pas si vous avez vu ça. Question Brexit. Possible, on ne sait pas. Brexit, effectivement, on peut en parler. Question Gilets jaunes. Une question ou deux sur la directive sur le droit d'auteur, effectivement. Question Choupa sur le chèque énergie, possible. Question 2 sur la directive sur le droit d'auteur. Est-ce que vous. Parce que je posais la question tout à l'heure, juste avant le live à Sylvain. Est-ce que vous connaissez les 5 types de.
Prof. 5 titres de prof.
Je te déteste. Les 5 types d'actes législatifs en Europe, autres que les directives. Enfin, 5, y compris les directives. En fait, est-ce que vous savez plutôt, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une directive par opposition aux règlements, aux décisions, aux recommandations et aux avis? Question Choupa sur le déficit à 2,5%. Peut-être peut-être un peu de la Chine, c'est vrai, la Chine aussi qui a acheté 300 Airbus. Question sur la visite officielle du président chinois et de son lit. J'ai très peur de ce que tu entends dire, Gérard.
T'as pas la référence?
Si, si, au ouais, 717.
Ah, pas du tout, non. Non, t'as pas eu la polémique qu'il y a eu, qui était une fausse polémique, mais en gros, il y a eu des rumeurs disant que le président chinois, quand il est arrivé en France, aurait demandé à ce qu'on exporte son lit en France pour pouvoir dormir dedans. Parce qu'il voulait pas dormir dans le lit de l'hôtel, je sais plus quel hôtel c'est. Et en fait, ça a été démenti, donc.
Ok. Ah, bah, je ne savais pas.
Bah là, on suit pas l'actualité.
Non, 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 je. Enfin, pas assez pour voir ça, visiblement.
Attends, ça a fait le tour des médias, hein, vraiment. BFM TV, c'était là, le lit est incroyable, quoi.
J'ai pas la télé, monsieur, je ne lis que les journaux. Car je suis un bobo parisien. On va peut-être parler que Macron invite Juncker et Merkel avec la Chine. Merkel qui représenterait donc tous les pays de l'UE. Oh, je sais pas si on peut dire ça, Salvador. Je suis pas sûr que. C'est juste que l'Allemagne est un partenaire quand même très privilégié de la France. Ils ont déjà ramené Hélène de Rolle, c'est Hélène Rolle, non? Rolles, je ne sais même pas comment ça se dit. Ouais. Il disait qu'il viendrait possiblement avec son lit, tous les médias ont dit que c'était sûr. Merci Benalla. Merci Benalla pour ton troisième mois de resub. Merci à toi. On est ravis de savoir que tu nous soutiens. Les aventures de Theresa May du Brexit, épisode 2163. Alors le Brexit, est-ce que vous avez réussi à suivre? Moi, j'ai essayé de comprendre. Je vous avoue que ça commence à devenir intellectuellement, ça commence à devenir exigeant de réussir à suivre le Brexit. Hein. Ça devient compliqué. François fera-t-il preuve de sagesse aujourd'hui? Bon, pourquoi cette question? Perceval, on sait tous que non. Mais merci pour ton 15e mois de resub. Merci à toi. On en est à 5 resubs aujourd'hui. Attends, 2, 4, 6 subs aujourd'hui. Merci à vous. Vous avez presque payé l'émission. Attends. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ouais, non, le Brexit, ça devient quand même compliqué à suivre. C'est-à-dire que là, maintenant, si j'ai bien compris, le point où on en est, mais alors je vous dis si j'ai bien compris, parce que vraiment, je suis plus sûr d'y comprendre que grand-chose, aujourd'hui ou demain, je sais plus d'ailleurs, les communes, la Chambre des communes, qui est donc la première chambre du Parlement anglais, donc en gros leur Assemblée nationale, va voter sur l'accord qui a été négocié entre l'Union européenne et Theresa May. Et de deux choses l'une, et après de trois choses l'une, on va dire. Soit l'accord est approuvé, et du coup, on aura un Brexit qui sera au plus tard le 22 mai. Soit l'accord est refusé, et dans ce cas, deux possibilités. Ils ont jusqu'au 12 avril pour s'organiser, pour organiser des élections européennes, parce que c'est la date limite à partir de laquelle ils n'arriveront plus à organiser des élections européennes au Royaume-Uni. Et donc, si il ne prévoit pas d'organiser des élections européennes, le Brexit aura lieu forcément avant le 12 avril. Et hard Brexit, du coup. Et si, en revanche, ils organisent des élections européennes, alors, mais bon, ça pose toutes les questions qu'on a évoquées la dernière fois, mais alors, le Brexit est reportable potentiellement jusqu'à fin 2019, voire sine die, ça veut dire en latin sans fin, qui est évidemment une des peurs des pro-Brexit. Et en même temps aussi, ça laisserait un peu tout le monde dans un flou législatif, de la même manière que, par exemple, je crois que c'est la Russie et le Japon qui sont encore en guerre officiellement, qui n'ont jamais conclu de traité de paix. Je me trompe peut-être sur les pays, mais voilà, il y a des trucs, des machins juridiques qui ne sont pas conclus. Sérieux, j'y comprends plus rien. Bon, bah, Lady Cassidy, j'ai essayé de résumer ce que moi j'ai compris. Mais je t'avoue que. Voilà. Et si on faisait un pari, s'il reste ou il part, moi je dis il reste. Moi je dis il part quand même. Ça le va grave. Mais ouais, pariez dans le chat. Hein. Vous pensez qu'ils vont rester ou qu'ils vont partir? Moi je dis il part. Qui a lu l'article de Mediapart sur Benalla aujourd'hui? Il y a encore eu un article aujourd'hui, le Vernet Trollo? Ça va trop vite. Salut Julie, tu vas siester, bien bonne sieste à toi. Moi je dis bluff, je vote. Moi je dis qu'ils partent, ils restent, ils partent. Moi je dis ils partent, mais trouve un accord économique qui conviendra à la finance mondiale. Merci Guy de Flux pour ton 15e mois de resub. Tiens, vous êtes tous à 15 mois, c'est fou. C'est où il y a un bug et merci Panzi pour ton sub. Et bah merci à tous pour ce Twitch Prime. C'est un Twitch Prime, effectivement. Pensez au Twitch Prime, les Twitch Prime, ça, je vous rappelle que ça ne vous coûte rien. Si vous avez déjà payé, ça ne vous coûte rien, les Twitch Prime. Ça vous permet de soutenir la chaîne et on vous aime pour ça. Mais donc merci à vous deux, Kitoflux et Panzi. 15 mois, waouh, on est un vieux couple maintenant. Merci à vous deux pour ce soutien. Il bluffe Martoni. Je demande à Martoni, c'est bien, vous avez tout. J'aimerais qu'on discute un peu des citations de films, genre OSS 117, La classe américaine, La cité de la peur, Les trois frères, tous ces films comme ça. Les citations de films, une de temps en temps bien placée. Merci Dishmoten pour ton 7e mois de resub. Merci à toi pour ton soutien. Je balance mon argent gratuit. Et merci à toi. Les citations de films, quand il y en a une qui est bien placée, dans un bon contexte, c'est très bien. Mais par contre, moi je trouve absolument insupportable quand ça part dans trois quarts d'heure d'échange de Ah, tu vois, je connais toutes les répliques de OSS 117. Il y en a marre, faut arrêter avec ça. C'est insupportable.
D'accord.
Voilà, tout ça pour dire. Non, parce que cette cité, tu bluffes Martoni, qui est la cité de la peur. C'est valable aussi pour les séries, c'est valable pour tout. Très bien François, faisons comme ça. Merci Perceval. C'est bien, je trouve que tu rentres exactement dans ce que je viens de dire. J'ai lu, j'ai rien compris, il parle d'un garde du corps de Macron, pas de Benalla. Mais non, ça c'était il y a 3-4 jours cet article. Sur comment il s'appelle? Garde du corps Macron, Mediapart. Sur Christian Guédon. Et c'était le 22 mars, c'était la semaine dernière. C'était qui? C'était l'Auvergnat. Sauf s'il y a eu un nouvel article aujourd'hui, je ne sais pas, mais. C'est vrai, ça, il s'agirait de grandir.
Je les banne si tu veux. Hein.
Yes! Je veux que tu bannes toute la communauté, s'il te plaît.
D'accord, bah, ça
Tu
marche.
bannes tout le chat. C'est juste ça l'histoire de Guédon, effectivement. C'est une histoire de guédon. Tempête dans un verre d'eau, cette histoire de guerre du corps. Oui, pour le coup, cet article-là, je trouve que, bon, ils l'ont beaucoup teasé. Enfin, non, il y a une info qui est un peu intéressante quand même, c'est que dans le détachement de sécurité du président de la République, il y a un mec qui a outrepassé les procédures pour. Enfin, à qui on a fait outrepasser les procédures pour y rentrer, ce qui est quand même pas anodin. Mais bon, c'est comme l'article de la semaine dernière, je crois que c'était mardi dernier, je vous ai dit, bon, bah, j'ai lu le précédent article sur Benalla et j'ai fait, bon, ouais, business as usual, quoi. Là, c'est pareil, c'est. On est tellement habitué à du n'importe quoi que. Putain, dernière as. Était-il armé que sait-on de l'Armageddon? C'est pas mal, moi, j'aime bien. Mediapart et son modèle économique de feuilletonner à mort. Oh, je sais pas. Faut de l'investigation quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on peut leur reprocher l'aspect feuilleton, mais faut que, enfin, mine de rien, il y a de l'info derrière, quoi. Après, il faut pas oublier que c'est quand même le monde qui a lancé toute l'affaire, toute l'histoire Benalla. Mais disons que Mediapart a bien embrayé. Le NPA ne sera pas aux européennes et appelle à voter Force ouvrière. France ouvrière. Force ouvrière. Effectivement, Salva Graf, on a appris ça hier. Oui, c'est un syndicat, lutte ouvrière, c'est pas force ouvrière, c'est lutte ouvrière. Mais bon, qui est parti du syndicat, grosso modo. T'es pas d'accord, on sent que t'es syndiqué, toi, Sylvain. Oui, effectivement. Donc, du coup, il y aura LO et aux européennes. Bah non, du coup, Dishmoten, il se retire de la course. Et non, attendez, c'est. Oui, je confonds. C'est. Le NPA qui se retire de la course et qui laisse enfin, qui laisse la place, qui appellera à voter lutte ouvrière. Ça fait longtemps que j'ai mis Benalla à la benne, non, par contre, ça, celle-là, on la valide pas, Doumdada. Je suis désolé, c'est un ban, direct. C'est une blague, évidemment. Je suis abonné depuis 2008, donc je suis plutôt satisfait de certains aspects de Mediapart, mais pour d'autres, le feuilletonnage, justement, où on sent qu'ils sont un peu des forceurs. Ouais. Pourquoi pas. Le Parlement européen a approuvé la fin du changement d'heure saisonnier en 2021. Effectivement, ça bosse dur au Parlement européen.
Alors, tu
Pardon.
savais que le gouvernement avait prévu de donner des noms aux bennes dans les rues?
J'ai très peur, vas-y.
Bah, ils veulent les appeler Ben la benne.
Me souviens pas avoir eu autant de choix dans des partis de gauche à une élection. Pourtant, j'ai jamais aussi peu
C'est sûr.
entendu doter. Je vais y aller, les gars. Je suis désolé. Hein. La régie, je termine ce stream.
Excusez-moi,
Putain, Chantouvre, là, n'embraye pas, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut ben la prod?
j'avoue que le Benzema était pas mal aussi, mais.
Les gars, quoi. C'est mardi, hein, je veux dire. C'est pas vendredi. Vous êtes dur, là.
Quel super.
Bon, effectivement, tout plein de sujets qui vont peut-être être évoqués ou peut-être pas. Quoi d'autre? Attendez, je lis un peu mes notes, hein, moi, depuis la semaine dernière. Oh, vous avez oublié un truc quand même. Attendez, c'était 21 mars, c'est ça? Oh, non, vous avez quand même oublié un gros truc, mine de rien. Parmi les grosses news de la semaine, donner une cam et un micro à la régie Péridée. Quelle indignité. 15 minutes à attendre en plus, ouais. Non, vous avez oublié quand même une grosse news. Alors oui, il y a le rapport de Mueller, effectivement, le canoïde, bon, ce sera sans doute pas évoqué parce que ça me paraît pas être un sujet digne de, enfin digne, susceptible de faire l'objet d'une QAG. Mais effectivement, le rapport de Mueller, qui est une grosse news de cette semaine. Donc, pour rappel, c'est Robert Mueller, qui est procureur aux États-Unis, qui est en charge de l'enquête sur la possible collusion entre les équipes de campagne de Donald Trump et des agents d'influence russe, voire la Russie. Et Robert Mueller et son équipe ont rendu un rapport il y a quelques jours. C'était quand? C'était vendredi, je crois. Ils ont rendu leur rapport. Le rapport est secret. On ne sait pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Il n'a été distribué qu'au ministère de la Justice, si je ne dis pas de bêtises. Ministère de la Justice américain, bien évidemment, pas la garde des Sceaux française. Et la seule chose qu'on en sait publiquement pour l'instant, on ne sait pas si ça va changer ou pas, etc. Mais pour l'instant, la seule chose qu'on en sait publiquement, c'est un résumé qu'a fait l'Attorney General. L'Attorney General aux États-Unis, c'est le garde des Sceaux chez nous, c'est le ministre de la Justice. Donc, il s'appelle William Barr, je crois, hein, c'est William. Oui, c'est ça, Bill Barr, William Barr. Donc, le ministre de la Justice en a fait un résumé du rapport de Bob Mueller, de Robert Mueller. Et ce résumé dit que tout va bien, j'allais dire Madame la Marquise, mais non, tout va bien tout court, qu'il n'y a rien de grave dans le rapport, et évidemment des sources officieuses disent que non, c'est un résumé qui est clairement partiel, ce qui n'est pas étonnant, parce que William Barr, le ministre de la Justice, il a été nommé par Trump, et donc c'est un soutien clair, affiché, indéniable de Donald Trump. Mais donc il y a beaucoup de sources qui disent que non, le rapport est bien plus explosif que ça, et voilà. Le patron de WWF qui part aux européennes avec La République en marche, effectivement, le Bovelka, on a appris ça quand hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, que La République en marche allait annoncer sa liste avec dedans Nathalie Loiseau, qui est donc la ministre en charge de l'Europe, qui sera tête de liste, ce qui du coup va entraîner un remaniement. Pascal Canfin, le patron de la WWF, qui sera numéro 2 sur la liste, alors qu'il avait déjà refusé à 2 reprises de rejoindre les équipes de la majorité, on va dire, pour aller au sens large, notamment à la démission de Hulot, il voulait pouvoir nommer son administration et ses secrétaires d'État, et l'Élysée lui avait dit non, donc c'est non, tu ne seras pas ministre de l'écologie. Et en novembre, il avait dit qu'il ne serait pas sur la liste de La République en marche pour les élections européennes. Dont acte. Lol. Donc voilà. Et donc Pascal Canfin. Et moi, j'ai vu passer un truc juste avant d'arriver, dont je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais qu'apparemment Bernard Guetta, qui est chroniqueur sur France Inter, serait chroniqueur sur des questions de géopolitique, serait également sur cette liste La République en marche. À confirmer, je ne sais pas. C'est parce que Canfin aime bien sauver les oiseaux. Waouh. La ministre qui découvre son envie de lire la liste aux européennes dans l'émission face à Le Pen, ils espèrent pas que les gens avalent ça. Bon, chacun se fera son idée, mais enfin c'est clair que c'est quand même une des annonces de candidature les plus maladroites que j'ai vues de ma petite histoire politique. Mais c'était quand même extrêmement maladroit, quoi. C'est déjà sortir une carte comme ça, c'est quand même gros comme le monde. Si en plus t'es mauvais acteur, c'est voilà quoi. Fait comme l'oiseau. Merci Salvagraph. Nathalie Loiseau tête de liste, comment mieux accélérer l'enterrement de première classe pour cette liste? Ah, pas sûr, hein, ils sont crédités de 22-23% dans les sondages quand même, genre sur une... Loiseau est maladroite, je trouve, comme ministre. Bah, après, comme ministre, disons que c'était pas, elle n'avait pas forcément des qualités oratoires incroyables, mais là, comme tête de liste, c'était vraiment très maladroit. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé quoi. Mais non, ce n'est toujours pas de ça dont je parle. Il y a une autre grosse news que vous n'avez pas évoquée
Rapport à
cette semaine. par rapport à l'article 13. Non, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, JCPO, par rapport à Benalla.
Oui.
Oui. C'est juste que comme c'était il y a une semaine, comment ça va le Salvador politique, Salvador, c'est quoi ça? Non, c'est juste que comme c'était il y a une semaine, on a l'impression que c'était il y a un monde, il y a une éternité, pardon. Mais non, quand même. Personne trouve. Il a changé de coupe de cheveux, on l'a vu en photo dans Closer, non, Pouzou.
On a déjà parlé ou pas?
C'était il y a une semaine tout pile, enfin un peu moins d'une semaine, c'était juste après l'émission de mercredi. Donc du coup, on n'en a pas encore parlé. Mais comme c'était il y a une semaine, on a l'impression que c'était il y a une éternité. Tu vois de quoi je parle, Sylvain? Sylvain, il voit. Le rapport du Sénat, effectivement, Hortaël. Eh oui, le rapport du Sénat, c'était jeudi dernier. C'est fou, hein? Ça date d'il y a quelques jours. Et pourtant, on a déjà l'impression que c'était il y a un mois. Jeudi dernier, le Sénat a. Donc la commission des lois, constituée en commission d'enquête, avait rendu son rapport suite à cette commission d'enquête et avait rendu son rapport au bureau du Sénat. Le bureau du Sénat avait ensuite le choix ou non de transmettre à la justice certains cas de personnes soupçonnées d'avoir menti devant la commission d'enquête. En l'occurrence, pour ce qui était d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, il y avait quand même de fortes chances que ça passe, enfin que ce soit qu'ils soient envoyés devant, enfin que leur cas soit signalé à la justice par le bureau du Sénat, mais restait en suspens les questions
Merci.
des autres intervenants dans cette commission d'enquête, enfin des autres auditionnés à cette commission d'enquête. Et donc effectivement, le bureau du Sénat a voté. Le bureau du Sénat, c'est 26 sénateurs. C'est une instance collégiale où chaque groupe est représenté selon son importance. Il est composé de 10 membres du Parti Les Républicains, Gérard Larcher inclus, 6 PS, 5 de l'Union Centriste, 2 du groupe RDSE, République démocrate sociale et européen, je pense, un LREM, un La République en marche, et un CRCE. Donc RDSE, c'est en gros le centre-gauche, et CRCE, c'est communiste républicain. Non. C'est quoi le deuxième C? Pof, pof, pof. J'ai un doute, évidemment, avec tous ces acronymes.
Raclette.
Communiste républicain, communiste républicain, citoyen et écologiste, qui est donc là le groupe communiste. Donc, je recommence. 10 salaires, 6 PS, 5 centristes, 2 RDSE, 1 LREM, 1 CRCE et un indépendant dans ce bureau. Et ils ont voté à la majorité le fait que les cas d'Alexis Kohler, donc le secrétaire général de la présidence de la République, de Patrick Schroeder, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et du général Lavergne, qui est le chef du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, seraient transmis à la justice pour faux témoignage devant la commission d'enquête, ce qui, pour rappel, leur fait risquer, je crois, 5 ans et 75 000 euros d'amende, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Si la justice décide qu'il y a effectivement eu mensonge devant cette commission d'enquête. Maintenant, ce sera la justice qui décidera. Ce n'est pas le Sénat qui s'érige en autorité judiciaire, c'est le Sénat qui fait son boulot, hein. Un bureau du Sénat à 90% de l'opposition, même plus que ça, Pouzou. Effectivement, le bureau du Sénat, on rappelle que le Sénat est très, très. La majorité au Sénat, c'est très largement les Républicains. C'est dû au mode d'élection du Sénat, etc. Enfin, je reviens pas dessus. Je peux revenir dessus si jamais vous voulez des éclairages, n'hésitez
T'as
pas.
pas le temps.
J'ai pas le temps, puisqu'il est 14h54, effectivement. Du coup, en ce moment, il rejoint le Sénat. C'est pas mal, j'aime bien Arthur. Et donc voilà.
Ça te fait rire, quoi.
Et ouais, moi j'aime bien. Bah, c'est bien trouvé, je trouve. Et du coup, évidemment, c'est pas anodin comme move de la part du Sénat, parce que alors Gérard Larcher, a priori, a quand même été un peu forcé dans ce. Gérard Larcher, lui, il n'était pas chaud. En tout cas, c'est ce qui se dit en off. Et il aurait été un peu forcé dans ce mouvement, dans ce move de transmettre à la justice les cas des trois camarades. Pourquoi il n'est pas chaud? Bah parce qu'effectivement, enfin évidemment, il y a la réforme constitutionnelle qui se prépare, si elle n'est pas encore enterrée, hein, ça, on n'en sait rien, mais d'après le gouvernement, elle devrait avoir lieu un jour. Et si elle a lieu un jour, il est évidemment question de ce qu'il adviendra au Sénat dans cette réforme constitutionnelle. Et évidemment, ce mouvement-là peut être interprété comme une déclaration de guerre vis-à-vis de l'Élysée, juste avant cette réforme constitutionnelle, et donc potentiellement un move dangereux de la part du Sénat. Mais aussi, on peut aussi voir l'autre côté le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, et dire que c'est aussi un moyen pour le Sénat de montrer au peuple son utilité et qu'il ne sert pas à rien, et du coup défendre sa légitimité si jamais, à l'occasion de la réforme constitutionnelle, il est question de supprimer le Sénat, de le réformer radicalement, etc. Et bah peut-être que ce move-là permettra de dire: ah non, mais attendez, regardez, le Sénat, c'est un truc essentiel, il ne faut pas le supprimer. Voilà. À un moment, dire la vérité, ça va être problématique. J'ai pas compris, Fergence. C'est pas nouveau, on en a parlé toute la semaine quand même. Oui, l'Auvergnat, mais on n'en a pas parlé dedans, sur Acropolis. Enfin, peut-être que.
Non, pas Adrien.
Que Adrien en a parlé, bah pas Adrien, mais on n'en avait pas parlé dans les QAG, c'est quand même pas anodin. Comment suit le feuilleton Benalla voilà, les mots me manquent, avec avidité, non, c'est pas les bons mots, bref. Donc voilà, avec délectation, merci Pouzou. Peut-on souhaiter une belle retraite à Monsieur Sueur? Non, Pilo Derman, pourquoi? Il a pas prévu de partir, Jean-Pierre Sueur, si? Je crois pas. Avec passion, avec la régie. Est-ce qu'on a déjà parlé de l'article 13 qui vient de passer? On l'a évoqué, Wheeler Gamin. L'article 13, qui est donc un article d'une directive européenne. Et donc, pour rappel, les directives européennes, ce sont des actes législatifs européens. Il y a 5 types d'actes législatifs européens. Il y a, parce que du coup, j'ai évoqué le truc tout à l'heure, mais je n'ai pas terminé. Hein. Il y a les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis. Les règlements, ça s'applique à tout le monde et c'est directement applicable sans aucune mesure de transcription nationale, donc dans la loi nationale. Les directives, ce qui est le cas ici pour l'article 13, ça donne un objectif à atteindre par les droits nationaux des différents pays et il y a un délai pour transposer les directives. Les décisions, ça a une force obligatoire, c'est directement applicable, mais par contre, ça n'est pas général, ça a un ou plusieurs destinataires précis, ça peut être des États, des entreprises, des particuliers. Les recommandations, ça n'a pas force de loi, c'est fait pour préparer le terrain pour des directives. Et les avis, ça n'a pas force de loi non plus, c'est des avis, quoi. Donc voilà, donc la directive et donc l'article 13, de ce que m'a expliqué Sylvain, parce que j'avoue que j'ai pas trop suivi ce truc-là. Moi, l'Europe, malheureusement, je connais moins bien dessus. Enfin, je suis moins un expert sur les questions de législation européenne. Mais de ce que m'a expliqué Sylvain, en gros, l'article 13, le lobbying de YouTube, Google et compagnie a priori un peu foiré. Puisque ce qui serait dans cet article 13, et on se lance en générique juste après.
Ah, j'étais pas du tout parti pour lancer en générique.
Ah, d'accord, ok.
Je le ferai
que tu me faisais signe.
Pas du tout.
Ce qui serait dans cet article 13, a priori, c'est que la responsabilité d'un contenu posté sur une plateforme serait déplacée de la personne qui poste le contenu, donc du créateur, comme c'est le cas actuellement, à je sais pas si on peut dire hébergeur, mais à la plateforme qui publie le contenu. Bon, en gros, pour le dire autrement, la responsabilité ne serait plus dans les mains des youtubeurs, mais dans les mains de YouTube, par exemple. Voilà ce que m'a résumé Sylvain. Ça finit à quelle heure les QAG? Je dois retourner en cours. Les QAG, ça termine à 16h en principe. Ça dépend du temps de parole d'Edouard Philippe, notamment. Merci Sam et Samba pour ton 15e mois de resub. Merci à toi pour ton soutien. 15 fois merci pour votre avis. Écoute, merci à toi, ça fait très plaisir. Ça devrait terminer vers 16h, 16h15, 16h30, selon à quel point il déborde. Mais en gros, entre 16h15 et 16h15, entre 16h et 16h15, c'est un bon pari. Puisque, pour rappel, ils ont 2 minutes de temps de parole chacun, il y a 15 questions. Donc ça fait 15 fois 2 minutes, plus de, enfin, 2 minutes de questions, 2 minutes de réponses, ça fait 4 minutes. 15 fois 4 minutes, ça fait 1 heure. Mais il y a déjà le temps de passer la parole de l'un à l'autre. Et le temps de parole d'Edouard Philippe, qui lui n'est pas limité à 2 minutes et qui peut prendre un bon quart d'heure s'il le souhaite quand il s'exprime. Et effectivement, un grand merci pour tous vos subs. Générique! Et oui, vous voyez le Palais Bourbon qui va accueillir cette séance de questions d'actualité au gouvernement d'ici quelques minutes. J'espère que vous êtes prêts. Quoi d'autre? Attendez, je survole vite fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, il y a aussi l'histoire du maire du Havre qui est accusé d'avoir envoyé des photos, des dick pics à quatre femmes, je crois. Maire du Havre qui du coup a été démissionné. Enfin, Édouard Philippe s'est ramené pour lui dire, bon, écoute, tu dégages. Enfin, il est temps d'y aller. C'est par là, s'il te plaît. Il y a le fait que le nouveau préfet de Paris, Didier Lallement, qui a remplacé Michel Delpuech, pourrait être entendu sur des histoires de favoritisme dans le cadre de marché public sur la Société du Grand Paris. On n'a pas parlé du
Ting.
probable remaniement que Ting. Merci Zoro pour ton resub. Merci à toi pour ton troisième mois d'abonnement. Ça fait beaucoup de resub. Merci à vous tous. Hein, ça nous fait très plaisir. Et donc oui, on n'a pas parlé du remaniement. Pour rappel, un remaniement, c'est un changement dans la composition. Merci beaucoup. Dans la composition du gouvernement sans démission de ce même gouvernement. Donc on resterait dans un gouvernement Édouard Philippe II, mais qui serait composé différemment. Et dans la mesure où Nathalie Loiseau s'en va, enfin très probablement s'en va, se pose la question de ce remaniement. Est-ce que la majorité va profiter de l'occasion pour opérer d'autres changements dans la composition du gouvernement ou pas? Notamment se pose la question de Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, qui sont tous les deux candidats à la mairie de Paris. Enfin, qui souhaitent tous les deux être candidats pour la République en marche à la mairie de Paris, est-ce qu'ils sortent maintenant ou plus tard? Voilà. Caroline Fiat Lux. Un petit café Calva pour tenir pendant les QAG, mais Gérard Collomb n'intervient plus pourtant. Non, non, c'est de l'eau. Et ma candidature à moi, je l'annonce quand? Eh bien, écoute, je suis candidat à la mairie de Paris. Pas
La
du tout.
séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.
Attends, mais la
La parole est à
régie.
Monsieur
Merci la
Guy
régie.
Fessier. Merci, monsieur le président.
La privatisation d'ADP, effectivement, c'était plutôt la semaine dernière, Flamia.
Madame la garde des Sceaux,
Mais
dimanche
peut-être que
dernier,
ça
vous avez
reviendra.
reconnu qu'il y avait d'ores et déjà sur notre
Allez, on
territoire
écoute.
200 djihadistes revenants. Cette information est très
Des
inquiétante pour la
revenants.
sécurité de nos concitoyens. D'autant que le gouvernement fait preuve à bien des égards d'amateurisme en ce qui concerne la surveillance des individus radicalisés. J'en veux pour preuve d'ailleurs la situation à Marseille. En octobre 2018, la direction de l'administration pénitentiaire ouvrait en catimini un dispositif secret d'accueil en milieu ouvert des condamnés et prévenus pour terrorisme. Ces plateformes d'accueil individualisées et de réaffiliation sociale dissimulent en réalité, sous une appellation technocratique plutôt sobre, des centres de suivi hors détention de condamnés pour terrorisme et prévenus. À Marseille, cette petite équipe doit aujourd'hui s'occuper quelques heures par semaine des jeunes de 22 à 35 ans, dont deux revenants du djihad, un
Des
sorti
zombies
de prison,
islamistes.
trois jeunes détenus de droit commun suspectés de radicalisation et six autres qui sont étiquetés terroristes islamistes. Et tout cela en plein cœur de ville. Il est surprenant, pour ne pas dire, madame, scandaleux, que vous préfériez parler aux journalistes plutôt qu'aux élus. Comment se fait-il, madame la garde des Sceaux, que le maire de Marseille et la présidente du conseil départemental, acteurs majeurs
Garde des
à la
Sceaux, c'est
fois de la
évidemment la ministre de la
sécurité et du
Justice.
social dans notre ville, n'aient pas été avertis de la menace potentielle issue de l'installation de tels services? Ayant eu connaissance de ces faits et souhaitant de plus amples informations, ils ont reçu une fin de non-recevoir de la part des représentants de l'État. Après les assassinats barbares de Morane et Laura, la fermeture de la mosquée Sunna et plus récemment l'attaque au couteau de passants sur la Canebière, il est clair que dans notre ville est affectée directement par la radicalisation et le terrorisme. Face à un dispositif d'expérimentation aussi opaque, pouvons-nous espérer de votre part des explications concernant la surveillance des individus dangereux lâchés en pleine nature, l'amateurisme en la matière n'ayant pas ici sa place? Sur un dossier aussi sensible, la coopération la plus étroite est attendue de tous. Madame, j'attends votre réponse.
Merci,
voilà,
monsieur
question
le député.
De
La parole est à
Guy
madame Nicole Belloubet,
Oui, d'ailleurs,
garde
avec
des
le
Sceaux,
Mylène.
Ministre
Guy
de la
Tessier,
Justice.
Guy Tessier, il est membre de la Commission des Affaires étrangères, membre
Mesdames
du
et
groupe d'études
Messieurs
sur les
les députés,
prisons et les
Monsieur
conditions
le
carcérales,
Guy de Tessier,
notamment.
ma réponse
Il est
la
surtout très
voici.
proche d'Alain Madelin.
Ces
Il a fait
centres
partie d'un
n'ont
groupe
évidemment
d'extrême droite
rien
nationaliste quand il était
d'opaque,
jeune,
ni rien
notamment.
de confidentiel. La
Soutien François
preuve,
Fillon et Alain
c'est qu'il
Madelin, qui on le sait,
figurait
est une figure
dans
très
le plan de
droitière
prévention
des
et
groupes
de
d'élites
lutte
français.
contre la radicalisation annoncée par le Premier ministre au mois de février dernier. Nous avons à l'époque dit clairement comment nous entendions prendre en charge les personnes qui étaient suspectées de radicalisation. D'une part, lorsqu'elles sont en détention, ce qui est le cas de la plupart d'entre elles, elles font l'objet, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, d'une évaluation et d'une prise en charge individualisée, notamment par des quartiers étanches ou bien une prise en charge à l'isolement ou un traitement spécifique. Lorsque ces personnes sont des personnes placées sous main de justice, car il y en a, qui sont donc à l'extérieur des établissements pénitentiaires, elles sont soumises la plupart du temps à un contrôle judiciaire et font l'objet, en plus du suivi par les personnels d'insertion et de probation, d'une prise en charge dans des centres spécifiques tels que ceux que vous avez évoqués. Nous avons expérimenté l'année dernière à Paris un tel centre de suivi des personnes radicalisées placées sous main de justice. La mise en place des dispositifs qui supposent une prise en charge éducative en termes de logement, psychologique, psychiatrique. Monsieur le député, vous me demandez des explications, je vous les donne. Laissez-moi terminer mes explications. Je vous disais donc que cette prise en charge, l'année dernière, a témoigné d'un certain succès pour désengager ces personnes de la radicalisation violente. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité développer ces dispositifs, à Marseille tout d'abord, à Lyon et à Lille dans un second temps. Monsieur le député, nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre la radicalisation violente et je suis certaine que vous nous accompagnerez en ce sens.
Merci, Madame la Ministre.
La parole est à Madame Anne-Laure Cattelot. Le député l'accompagnera.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, certains ont tendance à croire que l'industrie serait un sujet bien trop sérieux pour être débattu, défendu par tous. Or, l'industrie, l'avenir de l'usine à côté de chez nous ou à l'autre bout de la France, est bien un sujet qui anime nos chaumières, mobilise les élus locaux et nationaux. Je veux revenir aujourd'hui, monsieur le ministre, sur le cas de la société Ascoval, dont les salariés courageux vivent des montagnes russes émotionnelles depuis plus d'un an. Le scénario du démantèlement et de la clé sous la porte semble s'éloigner, avec 5 repreneurs potentiels déclarés à 2 jours de l'audience devant la chambre commerciale de Strasbourg. Il semble bien qu'il y a une méthode pour sauver un site industriel, que tout le monde, quelle que soit sa conviction politique, tous les syndicats, la direction, s'unissent dans le même but, donner un second souffle à des outils industriels qui ont de la performance. Mais soyons tous humbles. D'autres dossiers industriels sensibles n'ont pas la même issue, malgré tous les efforts. Je pense aux fermetures d'outils stratégiques, à Kers, Sambre-et-Meuse, des fleurons centenaires liquidés ces dernières années dans le Nord. Je pense à Arjowiggins, aux fonderies du Poitou, à Ford, à la sucrerie de Cany, dans l'incertitude, aux familles qui sont inquiètes en pensant à demain. Monsieur le ministre, anticiper doit être notre maître mot à tous. Il est difficile pour les régions, l'État, les élus locaux d'agir en pompier à la dernière minute. L'industrie française ne peut se détourner. Son avenir passe forcément par une intégration des considérations environnementales, terreau d'opportunités et de nouveaux marchés et une nécessaire digitalisation de l'outil industriel et des process de fabrication. Cette industrie du futur n'est pas un remplacement de l'ancienne par une nouvelle. Ces solutions doivent se réaliser dans chaque territoire de France. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale, monsieur le ministre, les mesures d'anticipation de la politique industrielle française afin que la fin du diesel n'ait pas de relent de fermeture des mines ? Comment mettre en œuvre un accompagnement approprié pour les territoires dépendants de l'industriel qui les abandonne ? Monsieur le ministre, notre enjeu est collectif. C'est la réussite des industriels français, leur donner envie d'investir, de faire confiance pour recruter.
Merci, madame la députée. La parole.
Ça mérite d'être précis comme question. La question d'Anne-Laure Cattelot. Anne-Laure Cattelot est députée du Nord. Elle est notamment chargée des missions auprès du gouvernement sur les plateformes d'accélération pour l'industrie du futur.
Et elle posait une. Et ceux qui ont des conversations à tenir peuvent aller les tenir en dehors de l'hémicycle. La parole est à monsieur le ministre.
En 2 minutes.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Anne-Laure Cattelot.
Merci pour cette question.
Ascoval peut reprendre espoir. Ascoval peut reprendre espoir parce que vous êtes mobilisés, que les élus se sont mobilisés, les élus locaux de la maire de Saint-Saulve jusqu'au président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Ascoval peut retrouver espoir parce que les salariés ont
Ascoval,
été
qui est une série exemplaires une série dans le
de
Nord.
Courage et de détermination. Et Ascoval peut retrouver espoir parce que nous avons hier 3 offres solides et sérieuses qui ont été déposées pour reprendre le site industriel d'Ascoval. Je me battrai.
Ah non, le site industriel est bien dans le est à Saint-Saulve, qui est bien dans le département du Nord.
Je me suis battu sur Arc International, qui a trouvé un nouveau financement.
La circonscription d'Anne-Laure
Cato. Je me suis battu sur les fonderies du Poitou, sur lesquelles nombre d'entre vous m'ont alerté. Je continuerai à me battre sur Arjo Wiggins. Je continuerai à me battre pour ce qu'il y ait une réindustrialisation solide, pleine de perspectives, pour le site de Blanquefort à Bordeaux. Mais vous avez parfaitement raison. Notre première responsabilité, c'est d'anticiper des transformations technologiques et industrielles qui sont d'une rapidité sans précédent dans notre histoire économique. Anticiper, c'est avoir le courage, comme vous, comme cette majorité, d'adopter une transformation de la fiscalité française pour que la fiscalité sur le capital soit moins lourde et que nous puissions financer notre industrie. Anticiper, c'est avoir des plans de formation et de qualification comme ceux qu'a lancé Muriel Pénicaud pour qu'on n'ait plus des usines, des PME, des TPE qui cherchent désespérément des chaudronniers, des soudeurs, des ingénieurs, des développeurs et qui n'arrivent pas à les trouver parce qu'en France, on ne qualifie pas en fonction des besoins des entreprises alors que désormais, depuis plusieurs mois, nous qualifions et nous formons les nouvelles générations en fonction des besoins de notre industrie et de notre économie. Et anticiper enfin, c'est financer l'innovation, c'est financer la recherche, c'est la mise en place du Fonds pour l'innovation de rupture que vous avez eu le courage d'adopter et qui va nous permettre de garder un temps d'avance en matière technologique.
Merci,
nous avons amorcé la reconquête industrielle.
Le fonds qui est financé par la vente notamment d'aéroports de Paris. Il sera financé par la vente d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux, on le rappelle.
Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Transition écologique et du Développement durable et de l'énergie. Monsieur le ministre, vendredi dernier, vous avez annoncé que les tarifs réglementés de l'électricité allaient sans doute augmenter de 5 à 6 % au mois de juin, conformément aux recommandations de la Commission de régulation de l'énergie. Si cela venait à être confirmé, ce sont donc plus de 25 millions de foyers qui verraient leur facture d'électricité augmenter, à hauteur de 85 euros pour les ménages qui se chauffent à l'électricité. La sortie de l'hiver va être rude pour les Français, alors qu'ils ont déjà subi une hausse de 35% de la facture d'électricité entre 2008 et 2017. Parallèlement, la pression exercée par l'État pour recourir au chauffage électrique ou au vélo électrique va également faire augmenter la consommation d'électricité. Cette forte hausse des tarifs s'explique notamment par nos choix en matière de mix énergétique. En effet, le fort soutien d'argent public au développement des énergies renouvelables pèse lourd dans la facture énergétique pour une efficacité et une rentabilité douteuse.
L'énergie, c'est quelle part de nucléaire, quelle part de renouvelable, quelle part de charbon, quelle part de...
Sur ces choix. C'est d'ailleurs l'objet de la commission d'enquête présidée par notre collègue Julien Aubert. Mais d'ici là, c'est le pouvoir d'achat des Français qui est menacé. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer que le gouvernement augmentera les tarifs réglementés de l'électricité de plus de 5% et à quelle date?
Donc, quelle augmentation pour les tarifs réglementés de l'électricité? C'est la question de Laure de la Raudière. Laure de la Raudière est membre de la commission des affaires économiques. Elle est vice-présidente de la commission d'enquête sur l'impact des énergies renouvelables.
C'est
l'ancienne cadre de France Télécom. Elle est notamment diplômée d'ingénierie des télécoms.
La loi prévoit que les tarifs de l'électricité, les tarifs régulés, car il y a les tarifs qui sont proposés librement par des concurrents, mais les tarifs régulés doivent sont fixés de manière indépendante par la Commission de régulation de l'énergie. C'est une loi votée en 2010 lorsque Jean-Louis Borloo était à ma place. C'est en se fondant sur les coûts de production de l'électricité, sur le prix régulé de l'électricité nucléaire et les coûts commerciaux d'EDF. Toute décision s'éloignant des formules calculées par la Commission de régulation de l'énergie sont systématiquement annulé par le Conseil d'État qui est systématiquement saisi par les concurrents d'EDF. C'est ce qui s'est passé en 2014 alors que Ségolène Royal était ministre à mon poste et qu'elle a voulu appliquer un autre tarif. Ce sont les Français qui ont payé ensuite le rattrapage de cette décision irresponsable. C'est d'ailleurs quand Madame Royal était ministre que la loi a désormais dit que la décision du ministre en charge de l'énergie ne pouvait pas s'éloigner des recommandations de la Commission de régulation de l'énergie. Le principe, il est simple, c'est un principe économique de bon sens. Le prix doit couvrir les coûts de production de l'électricité et rien que les coûts d'EDF qui sont aujourd'hui principalement les coûts du nucléaire. Nous avions pris l'engagement de ne pas augmenter, comme c'était prévu, l'électricité pendant la période hivernale pour éviter aux Français qui se chauffent à l'électricité de subir cette hausse. Cet engagement est tenu. Par ailleurs, le chèque énergie qui a succédé aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz a été augmenté par une décision du Parlement de près de 50 euros en moyenne et plus de 2 millions de personnes supplémentaires vont en bénéficier. Et c'est bien notre politique d'accompagnement social et de transformation énergétique qui permettra aux Français d'avoir une facture qui ne s'alourdit pas.
Merci, c'est Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bountan.
C'est la réponse de François de Rugy.
Merci. Ma question s'adresse à Jean-Yves Le Drian. Et je souhaite associer mes collègues Nicole Dupré-Chira et Christophe Arendt. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le 27 janvier 1964, le général de Gaulle faisait de la France le premier pays occidental à reconnaître la République populaire de Chine. 2019 marque le 55e anniversaire de cet acte fort auquel le peuple chinois reste profondément attaché. La visite d'État qu'effectue en ce moment même le président chinois Xi Jinping dans notre beau pays, témoigne de cette solide amitié. En 55 ans, nous avons tissé des liens étroits.
Ça ne vous a pas échappé que Xi Jinping est passé en visite à Paris.
Économique et scientifique que nos deux pays ont élevé en 2004 au rang de partenariat stratégique global. Aéronautique, agriculture, transport ou encore innovation, nos coopérations sont florissantes et participent au dynamisme économique de la France. Pour preuve, la commande de 300 Airbus pour près de 30 milliards qui a été signée hier. Ce succès ne doit cependant pas masquer les défis qui se présentent à nous. Qu'il s'agisse de projets des nouvelles routes de la soie, du déploiement de la 5G ou d'autres secteurs stratégiques intimement liés à notre souveraineté.
Nouvelle route de la soie, vous voyez ce que c'est ?
Absolument progresser et trouver ensemble des réponses adaptées. Seconde puissance mondiale, la Chine est un interlocuteur incontournable pour nous et pour l'Europe. Seule une position commune nous permettra de rééquilibrer le rapport de force. La présence ce matin de la chancelière allemande et du président de la Commission européenne autour d'Emmanuel Macron face au président chinois est un signal fort.
La nouvelle route de la soie, c'est une stratégie d'influence de la part de la République populaire de Chine.
Nous en dresser le bilan.
On écoute la question.
De cette visite, de notre stratégie, et nous indiquer la stratégie suivie par la France pour que ce partenariat soit véritablement gagnant-gagnant.
Merci.
Donc, la nouvelle route de la soie, c'est une stratégie d'influence en politique étrangère de la part de la République populaire de Chine, donc ce qu'on appelle la Chine, hein, c'est le gros morceau, sans Taïwan, qui consiste à aller soutenir des pôles de développement, on va dire, des certains pays et certaines villes, pour constituer des réseaux commerciaux qui passent par l'intérieur des terres et donc notamment, en gros, regardez sur un planisphère, mais en gros, de la France à la Russie, on va dire, et enfin de l'Union européenne à la Russie, et aussi par les mers, et donc en passant par le canal de Suez, la pointe de l'Érythrée, le sud de l'Inde et les îles d'Océanie, en aidant au développement de ports, de centres commerciaux importants, etc.
Monsieur le député, la parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Monsieur le député Bointon, mesdames et messieurs les députés, la visite du président Xi s'achève.
On est à développer ce qu'ils appellent un collier de perles.
Les perles étant les différents. Un succès. En tout cas, elle marque une étape importante dans nos relations bilatérales. Vous l'avez dit, monsieur le député, 55 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, il y a des symboles dans la relation bilatérale que vous avez évoquée, ne serait-ce que la commande record de 300 Airbus qui marque le dynamisme de cette coopération. Je souligne aussi l'importance des engagements dans le domaine agricole et agroalimentaire avec la levée de l'embargo sur la volaille qui succède à la levée de l'embargo sur la viande bovine qui permet aussi des agréments pour plusieurs entreprises françaises dans l'agroalimentaire. Cela ouvre beaucoup de perspectives qui s'ajoutent à la coopération nucléaire qui se poursuit, la coopération spatiale. Et il y a eu beaucoup d'engagements pris dans le domaine de la coopération culturelle et de la mobilité des jeunes. Mais ce qui est le plus important que vous avez souligné, c'est le fait que il y a un approfondissement de la démarche pour un multilatéralisme rénové et plus équilibré, qui a été marqué ce matin par la présence d'une Europe unie sur ses engagements, en présence de la chancelière Merkel et du président Juncker. Le président français avait souhaité cette rencontre élargie. Cela marque une démarche de fond sur un nouveau multilatéralisme qui porte en particulier sur la dimension climatique et les engagements mutuels que nous prenons à cet égard, qui porte aussi sur la rénovation indispensable de l'Organisation mondiale du commerce et qui porte enfin sur la connectivité, que vous l'appeliez route de la soie ou connectivité. Le sujet, c'est qu'il faut qu'elle soit à double sens et qu'elle réponde aux normes internationales. Voilà, très condensé, le bilan d'une visite qui, à tous égards, a été exceptionnelle.
Merci. Donc
voilà, la réponse de Jean-Yves Le Drian. Je n'ai pas eu le temps de présenter l'orateur qui posait la question. Il s'appelle Buon Tan, il est membre de la Commission des Affaires étrangères. J'espère que je dis bien son nom, je m'excuse si ce n'est pas le cas. Il a été notamment président du CRAAF, le Conseil représentatif des associations asiatiques de France. Mais il en a été écarté en raison de sa gestion très personnelle et autoritaire, je cite. Il a fondé le Haut Conseil des Asiatiques de France en 2015. Il a développé le marché de la grande distribution et lancé l'Empire d'été. Et il est aussi président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. Pour revenir un peu sur la stratégie du collier de perles, la nouvelle route de la soie, googlez ça, tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, pardon, et vous verrez pourquoi est-ce qu'on appelle ça un collier de perles, parce que on voit qu'il y a différentes villes qui sont ciblées et il y a différents chemins ferroviaires quand il est question de la terre, évidemment par bateau quand il est question de la mer, avec des villes comme Venise, Athènes, Nairobi, Colombo, Calcutta, etc. pour jusqu'à Guangzhou pour la partie maritime, et d'autres comme Rotterdam, Moscou, Istanbul, Téhéran, Samarcande, Islamabad, Lanzhou et Xi'an, et Pékin, etc., pour la partie ferroviaire, et vous verrez que ça forme un cercle. Et quelqu'un disait, le collier de perles, c'est aussi des bases militaires, c'est effectivement aussi des bases militaires. En gros, l'idée, c'est que la Chine va se mettre à faire ce que faisait les États-Unis avant, c'est-à-dire à essayer d'avoir une influence à la fois militaire et commerciale bien, bien plus forte dans de nombreux pays du monde. Je crois qu'il y a environ 70 pays qui sont concernés par cette nouvelle route de la soie. On continue.
Joachim Pueyo.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. 5 ans. Il aura fallu 5 ans et plusieurs milliers de morts pour reconquérir les territoires occupés en Irak et en Syrie par le groupe terroriste Daesh. Cette organisation la plus brutale de l'histoire moderne faisait régner un régime de terreur sur les populations, multipliant les viols, décapitations, exécutions sommaires. C'est à partir aussi de ce califat que de nombreux attentats ont été commandités, aussi bien dans la région que dans le monde, y compris en France. Je tiens à saluer le courage et le sacrifice de tous ceux qui sont engagés dans ces batailles, notamment l'Alliance arabo-kurde, regroupée au sein des forces démocratiques syriennes, sans laquelle aucune victoire n'était possible. Je souhaite également rendre hommage aux différents pays qui participent à la coalition internationale et tout particulièrement aux soldats français engagés dans l'opération Chamal d'une manière admirable.
C'est une innovation pour les soldats de la France.
La fin de ce califat marque une étape importante. Cependant, nous devons rester très vigilants, car Daesh demeure une menace compte tenu de sa stratégie qui va évoluer et de sa doctrine toujours présente. Alors que la crise syrienne entre dans sa 8e année, le pays est toujours dévasté.
On n'a pas encore la question, Willard Gama, pour l'instant, c'est on applaudissait les militaires, notamment français, qui ont permis de défaire Daesh.
Les incertitudes demeurent. Il faut reconnaître que le régime de Bachar al-Assad domine une large partie du pays. Néanmoins, la question des espaces contrôlés par les rebelles arabes et aussi les Kurdes va se poser. Face aux pressions du régime, à l'implication de la Turquie, de l'Iran et de la Russie, mais aussi aux annonces intempestives du président des États-Unis, peu de place subsiste pour l'Europe dans la résolution de cette crise. Nous le regrettons. Ma question sera donc double. Quelle politique le gouvernement compte-t-il mettre en place en liaison avec l'Union européenne dans la résolution de la crise syrienne? Et comment pouvez-vous assurer un soutien pérenne et juste aux forces arabo-kurdes qui ont combattu
merci,
pour nous sur place.
Collègue, je vous remercie. La parole est à M. Jean-Yves Le Drian, ministre.
Donc, question de Joachim Couillot. Il est vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Armées et membre de la mission.
Merci, monsieur le
Député. De la mission d'information relative au suivi des blessés. Et sa question portait sur Daesh et sur l'avenir notamment des Kurdes.
À la représentation nationale de l'hommage que vous venez de rendre aux forces françaises qui ont combattu et qui continuent à combattre contre la barbarie en Syrie. J'avoue d'ailleurs entendre ces propos et constater cet hommage avec beaucoup d'émotion puisque j'étais moi-même ministre de la Défense au moment de l'engagement de ces forces. C'est la fin du califat territorial. Et il faut souligner l'ampleur de l'action menée par les forces démocratiques syriennes, en particulier dans les derniers moments du combat contre Daesh dans la ville de Barouz. Ces forces démocratiques syriennes ont fait preuve d'un courage et d'une détermination exemplaires. Et leur engagement, en particulier dans les zones à partir desquelles sont venus les assassins qui ont sévi sur notre sol, leur engagement mérite à la fois le respect, mais nous oblige pour la suite. Alors ce n'est pas parce que le califat territorial est maintenant éradiqué que la menace de Daesh est supprimée. Il reste les risques de clandestinité. Et cela nous amène à 4 exigences pour la France. D'abord, poursuivre avec les membres de la coalition la suite de l'action militaire pour assurer la sécurité dans le Nord-Est. Nous nous en occupons en particulier avec nos partenaires américains. Ensuite, la nécessité d'avoir une solution politique, parce que vous l'avez bien dit, il reste des zones conflictuelles majeures, y compris des zones de guerre civile interne à la Syrie, dans la zone d'Idlib. Il importe de trouver la solution politique. Pour cela, il y a une résolution des Nations Unies, la résolution 2254. Elle doit s'appliquer. Il importe que l'ensemble des acteurs puissent la mettre en œuvre. Enfin, il est indispensable de mener une action humanitaire immédiate face à l'afflux des réfugiés, singulièrement dans la zone du Nord-Est, mais aussi dans les pays avoisinants. Et la France, à cet égard, remplira tous ses engagements.
Merci, monsieur le ministre.
Et pas de réponse spécifique sur la question des Kurdes et du Kurdistan. Vous savez que les Kurdes, c'est une population qui est située à cheval sur 4 pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, qui, pour une large partie, voudrait son indépendance.
Ma question porte sur l'avenir de notre filière nucléaire. Nous l'avons vu au cours du grand débat national, les problématiques énergétiques sont parmi les préoccupations majeures de nos concitoyens. Cependant, s'agissant du nucléaire, beaucoup expriment leurs difficultés à comprendre l'avenir de cette filière. Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie donne le cap. Réduction à 50% de la part d'électricité d'origine nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2035 et décroissance du parc nucléaire par la fermeture de 14 réacteurs. Néanmoins, la mise en œuvre de cette stratégie appelle des précisions. La liste des réacteurs qui fermeront n'est pas fixée. Et l'on ne peut se satisfaire d'un délai de 3 ans entre une décision de fermeture et une prise d'effet. Même question concernant l'implantation des nouvelles piscines de stockage des déchets ou de réacteurs de type EPR. Dans ce contexte, depuis quelques mois, une 15aine de projets d'expansion émergent discrètement en France. Dans mon département de Loire-et-Cher, par exemple, EDF envisage l'acquisition d'une 100aine d'hectares de terres agricoles autour de la centrale de Saint-Laurent. Or, jusqu'à présent, le flou demeure quant à l'utilisation future de ces réserves foncières. De telles démarches ne peuvent que susciter l'inquiétude des riverains, agriculteurs ou élus locaux. Et par ailleurs, l'incertitude permanente concernant le devenir des sites nucléaires donne l'impression que nous cherchons, sans le dire, à maintenir le statu quo. Monsieur le ministre, nous le partageons, je crois, la conviction que l'accélération de la transition écologique suppose l'adhésion de tous les Français. Ainsi, me paraît-il indispensable, si nous voulons une politique énergétique viable, que sa mise en œuvre soit assumée, transparente et intelligible jusque dans sa déclinaison territoriale. Donner de la visibilité sans tabou, c'est permettre aux acteurs concernés de prendre en main leur destin. Dès lors, ma question est la suivante. La prochaine PPE permettra-t-elle de clarifier
PPE,
le devenir de chacun de nos sites nucléaires?
Merci, PPE, monsieur le programmation député, pluriannuelle de l'énergie. François, la question de Stéphane Baudu, qui remplace Marc Fesneau, porte sur la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Monsieur le député Baudu, nous partageons votre
préoccupation. Votre programmation qui est passée il n'y a pas longtemps, et votre programmation, c'est quoi? C'est un truc qui,
contrairement à la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie, celle que nous avons présentée le 27 novembre dernier, elle est précise. Elle est détaillée, elle donne le cap année après année, dans chaque secteur.
Qu'est-ce que... Bug ? Yes, génial, merci.
Les investisseurs, mais aussi les collectivités locales et les Français sachent où nous allons et que nous ayons une visibilité. Et cette programmation pluriannuelle de l'énergie concernant le nucléaire a fixé clairement les différentes étapes. Vous le savez, d'ici 2022, la centrale de Fessenheim fermera. Je l'ai annoncé sur place, le premier réacteur en mars, le deuxième réacteur en août 2020. Pour le reste, nous avons programmé la fermeture progressive et anticipée de 14 réacteurs d'ici 2035. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas que cela se fasse simplement au gré de décisions concernant la sécurité des réacteurs, comme cela se passe aujourd'hui en Belgique, où 5 centrales sur 7 sont à l'arrêt pour des raisons de sécurité, car cela n'a pas été anticipé.
Les centrales françaises commencent à être vieilles.
Nous avons demandé à l'opérateur EDF
il existe un concept
quels seraient les réacteurs qui seraient fermés,
qui est la falaise, nucléaire.
De sites concernés que je vous rappelle.
C'est le fait
Tricastin, Bugey, Gravelines, Dampierre, Le Blayais, Cruas, Chinon et Saint-Laurent.
Devraient fermer au même moment et donc la capacité de production énergétique française devrait chuter d'un coup.
Ce ne seront pas des fermetures de centrales, mais des fermetures de réacteurs à la fois pour permettre au territoire d'anticiper cette transformation, qu'elle soit progressive et de ménager l'avenir. Concernant l'avenir, nous aurons un rapport détaillé sur les EPR d'ici la fin de 2021 pour que les décisions puissent être prises en 2022.
EPR, c'est des centrales nucléaires. Et fun fact, Stéphane Baudu qui posait la question, il est vice-président de la communauté d'agglomération de Blois qui s'appelle Aglopolis.
L'image de la France à l'étranger a été très fortement dégradée par votre incapacité à mettre un terme par de vraies solutions politiques aux manifestations violentes qui émaillent notre pays depuis 18 semaines.
C'est de la majorité de l'opposition.
Se satisfaire glorieusement d'un samedi contenu et encore avec des victimes
merci
de
Olivier
part et
pour ton prime.
Après des mois d'échecs, nous paraît totalement déplacé. Les commerçants, kiosques, restaurateurs, hôteliers et toute la filière touristique subissent des pertes considérables et une baisse de fréquentation. Alors que le tourisme est l'un des rares secteurs économiques en France à avoir une balance commerciale positive, et ce dans un contexte où notre déficit extérieur ne cesse de se creuser. Il a d'ailleurs atteint un record en 2018 sous votre gouvernement de moins 60 milliards. Alors que l'Allemagne connaît, elle, un excédent commercial dans le même temps de 280 milliards, sans commentaire. Or, que décide le gouvernement en catimini au mépris de toute décision politique de bon sens ? De baisser d'un tiers les moyens à l'étranger de la structure en charge de la promotion de notre pays à tout France. Sur la forme, c'est déjà proprement scandaleux. Vous ne pouvez agir ainsi. De façon totalement opaque, méprisant ce qu'a voté le Parlement lors de la dernière loi de finances. Vous donnez beaucoup de leçons au Sénat, mais vous ne respectez pas nos assemblées. Sur le fond, politiquement, c'est totalement irresponsable. Alors que notre pays et notre économie ont besoin, plus que jamais, que soient maintenus les moyens dédiés à restaurer l'image de la France, vous les réduisez considérablement. Monsieur le Premier ministre, ma question est très claire. Allez-vous revenir à du bon sens, à nous écouter enfin et maintenir les moyens dédiés à la promotion de la France, à la fois pour restaurer l'image de notre pays et endiguer quelque peu vos très mauvais résultats en matière de déficit commercial ?
Question.
Merci, chers collègues.
Ils sont motivés. Question d'Émilie Bonivard. Émilie Bonivard, elle est coprésidente du groupe d'études sur la valorisation des activités touristiques. Et les membres du bureau politique et de la Commission nationale d'investiture, les Républicains.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Bonivard. Oui, l'image de la France a été atteinte par un certain nombre d'émeutiers qui se sont permis de s'en prendre à des symboles nationaux, qui se sont permis de s'en prendre également à l'outil de travail d'hommes et de femmes dans l'hôtellerie, dans la restauration, en s'en prenant au travail d'ouvriers et d'ouvrières du luxe français. Et cela, nous le déplorons et j'espère que vous le déplorez également. Alors face à cela, nous ne restons pas inertes. Nous avons La semaine dernière, réuni 1000 tour opérateurs à Marseille pour.
C'est quoi Tour France? Tour France, c'est un groupement d'intérêt économique qui. Et c'est l'agence de développement touristique de la France.
Clientèles étrangères. Vous l'avez vu également à Chambéry lors de l'opération Grand Ski. Ils étaient massivement là et ces clientèles répondent présentes à une saison d'hiver qui se déroule très bien. Et donc, s'agissant des outils de promotion de la France, je tiens à vous rassurer pleinement. Nous avons fait le choix, sous l'autorité du Premier ministre, d'accorder 5 millions d'euros de recettes supplémentaires grâce aux recettes des visas. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ces 5 millions d'euros vont devenir 8 millions d'euros d'ici quelques mois grâce à l'augmentation des visas Schengen. Et permettez-moi de m'étonner, alors que le président de votre région, par ailleurs président de votre famille politique, appelle de ses voeux 20 milliards d'euros d'économies, que dès qu'il s'agit de regarder 4 millions d'euros, vous commencez à tousser.
Yes, pas trop popole comme réponse.
Et donc, s'agissant d'Atout France,
Monsieur
c'est tenu
Nuno.
Un conseil d'administration la semaine dernière. Et j'ai pu dire qu'effectivement, nous allions avoir le temps d'élaborer un nouveau contrat d'objectifs et de performance. C'est la règle. Et il est important de voir que Atout France est un opérateur.
Voilà, on est sur de l'épilepsie. La régie
politique appelle de ses voeux 20 milliards d'euros d'économies. Dès qu'il s'agit de regarder tenu le conseil d'administration la semaine dernière, et j'ai pu dire qu'effectivement nous allions avoir le temps d'élaborer un nouveau contrat d'objectifs et de performance. C'est la règle. Et il est important de voir que Atout France est un opérateur qui a réussi à se transformer depuis de nombreuses années. Et nous faisons pleinement confiance
Merci.
Aux hommes et aux femmes de cet opérateur.
Merci, monsieur le ministre.
La réponse de Jean-Baptiste Lemoyne. Bien.
La parole est à madame Anne-Laurence Pétel et à elle seule.
Merci.
Comment ça va être agacé,
Richard Ferrand ? Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'État chargé du numérique. Monsieur le ministre, vous avez signé ce matin la charte e-commerce, un code de bonne conduite entre les PME et les plateformes de vente en ligne. Parallèlement à l'instauration d'une taxe sur les GAFA, cette avancée répond à une des nombreuses problématiques que la révolution numérique pose à notre société et à notre économie. Cette charte repose sur trois piliers. La formalisation des relations commerciales, une garantie d'un échange ouvert, fiable et individualisé, la lutte plus efficace contre la contrefaçon. Tels sont donc les trois engagements auxquels les plateformes numériques devront se conformer. Ces géants doivent à leurs partenaires, nos entreprises, plus d'éthique, plus de respect, plus de transparence. Mais voilà, les deux acteurs les plus puissants du secteur, j'ai nommé Alibaba et Amazon, refusent les règles d'un jeu équitable pour continuer à imposer la loi du plus fort. En refusant de signer cette charte, ces deux empires commerciaux refusent l'équité commerciale. Ils refusent de respecter leurs partenaires, les TPE-PME, qui sont les véritables créateurs de richesses.
TPE-PME, c'est très
petites
entreprises et petites et moyennes entreprises.
Face à ces géants du e-commerce qui imposent leurs règles sans vergogne, nos petites et moyennes entreprises sont soumises aux déloyautés du numérique. Déréférencement du jour au lendemain, explosion des frais d'intermédiation, absence de contact et d'information. Avec cette charte de bonne conduite, vous avez décidé de mener ce combat, monsieur le ministre, pour équilibrer les relations commerciales et pour protéger nos TPE-PME de la loi du plus fort et des pratiques déloyales des plateformes numériques. Je crois pouvoir affirmer que la représentation nationale tout entière, au-delà des clivages politiques, est avec vous sur ce sujet de la protection des entreprises françaises, car elles sont la clé de voûte de notre économie. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur les engagements contenus dans cette charte et l'action que vous entendez mener pour contraindre Amazon et Alibaba à s'y conformer ?
Merci, madame la députée.
Comment est-ce qu'on fait en sorte que certains des géants du numérique acceptent de payer leurs impôts ? C'est la question d'Anne-Laurence Pétel, secrétaire de la Commission des affaires économiques, qui était notamment chargée des relations extérieures chez Bouygues Télécom.
Nous avons signé cette charte avec des entreprises qui se sont engagées. Vous l'avez rappelé, deux d'entre elles n'étaient pas présentes, et parmi les plus grosses, Amazon et Alibaba. J'ai dit hier, je suis en colère contre Amazon, parce que depuis six mois, nous avions travaillé ensemble. Pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que le e-commerce en France, c'est 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et je suis sûr que c'est important pour vous, 200 000 PME françaises. 200 000 PME françaises qui vendent sur ces marketplaces. Alors c'est quoi une marketplace ? Une marketplace, c'est un site internet
En fait, une charte, ce n'est pas vraiment contraignant juridiquement.
Mais qui est vendue par une entreprise. Et souvent, derrière cette entreprise, c'est une entreprise de proximité, c'est une TPE, c'est une PME. Alors, quand tout va bien, c'est formidable pour cette PME. C'est 30%, 40% de chiffre d'affaires en plus. Mais quand tout va mal, quand la grande plateforme ne vous répond plus au téléphone, quand elle vous déréférence ou qu'elle change de façon unilatérale son prix, eh bien, c'est vous qui perdez tout. Et là, on parle d'éditeurs de proximité, on parle d'artisans, on parle de petits industriels. Eh bien, pour tout cela, nous nous sommes engagés autour de cette charte. Et je veux dire que ce matin, Le Bon Coin, Rakuten, Cdiscount,
IBF, Fnac d'Art, beau, c'est que... Manom... Quand même, même tu l'acceptes,
ce matin, Le Bon Coin, Rakuten, Cdiscount, IBF, Fnac d'Art,
la Redoute, volonté à l'appliquer,
Manomano, Conforama, Boulanger, qui représentent à eux tous la majorité du secteur, se sont engagés à mettre un interlocuteur humain à la disposition de ces PME, à s'engager sur la transparence des frais et à lutter contre la contrefaçon. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas signé ? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas signé, il y a le règlement européen P2B, règlement sur lequel la France s'est engagée, sur lequel je me suis engagé personnellement depuis près de 2 ans. Cet engagement, ce règlement, il sera voté dans quelques jours, il deviendra une réalité dès 2020. Cette charte de bonne conduite, c'était simplement une façon pour la France et pour les acteurs qui veulent y avoir un impact positif de s'engager avant que le droit les y oblige. Alors moi, je suis très heureux de célébrer ces plateformes françaises et européennes qui se sont engagées, et pour les autres, je leur dis
que c'est plateforme to business.
Merci, monsieur le ministre.
Il y a B2B qui est business to business, B2C qui est business to consumer, et B2B.
Les citoyens réquisitionnent 27 portraits d'Emmanuel Macron. 22 gardes à vue, 16 perquisitions et 14 convocations à procès. Des militants à Bure luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Une cinquantaine de procès, une vingtaine de perquisitions, 26 interdictions de territoire, une association de malfaiteurs. Vous frappez les lanceurs d'alerte écologistes. Nous les félicitons. Bravo à eux qui lancent l'alerte partout dans le pays. Retirez des portraits présidentiels pour les déplacer là où le gouvernement soutient des grands projets inutiles. C'est une idée amusante pour quiconque a un peu d'humour. Mais Macron ne rit qu'à ses propres blagues. S'autoproclamer champion de la Terre avec un sens du ridicule achevé, notre président sait le faire. Mais il ferait mieux de dire directement comme Trump que l'urgence écologique n'existe pas. En comparaison des politiques anti-écologistes du président, dérober une photographie est particulièrement modéré. Mais la majorité compte traîner les militants d'Action non violente COP21 en justice. Quelle horreur ! Ils ont osé toucher le saint portrait de sa grâce présidentielle. J'espère qu'au moins ils ont participé au grand débat pour ne pas aggraver leur crime de lèse-majesté. L'heure n'est pas à arrêter ces citoyens qui œuvrent pour l'intérêt général. Elle est à punir ceux qui ne font rien alors que vous êtes en train de détruire nos milieux de vie. L'urgence, c'est de combattre les puissances de l'argent et leurs représentants politiques. Macron a oublié que de la répression de Bure à la montagne d'or en Guyane, en passant par le soutien au nucléaire et aux pesticides, les vrais dangereux sont ceux qui détruisent notre avenir. Le casseur de la planète, c'est lui. Vous devez être tenu responsable de l'inaction écologique de l'État. Vous devez être tenu responsable de la continuation de ce modèle que vous défendez, monsieur le ministre de la Transition écologique. Confier vos états d'âme dans la presse n'est pas à la hauteur de la situation. Vous êtes déprimé, monsieur de Rugy ? Allez donc retirer quelques portraits présidentiels des mairies. Ça met en joie, paraît-il. Et je me demande alors si vous déciderez enfin à poursuivre les vrais responsables du désastre qui vient.
Cramer des bagnoles, ça réchauffe.
Merci.
Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, membre de la commission du développement durable, pardon, secrétaire de la mission d'information relative aux freins à la transition énergétique.
Merci.
Soutien de Mélenchon depuis 2015, ancienne bénévole de l'assaut ATD Quart-Monde. Elle a fait Sciences Po Paris.
Madame la députée Panot.
Et elle est surtout coordinatrice des groupes d'appui de la France Insoumise.
Je crois que quand nous sommes des élus de la République ou des responsables politiques, on doit être bien conscient de la symbolique des gestes dans le contexte qui est le nôtre. Et chacun voit bien la symbolique d'aller s'attaquer dans des mairies au portrait du président de la République, celui d'aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron, mais depuis toujours, les présidents de la République ont leur portrait affiché dans toutes les mairies.
Donc là, François de Rugy est en train de répondre oui, c'est bien
de
la majesté. Pas sûr que ce soit visé.
De base de la République française. Et chacun voit bien que dans un contexte où on s'attaque violemment
aux institutions de la République. On a vu ce qu'il en était ces dernières semaines. Où on s'attaque aux policiers qui défendent justement l'ordre public, le droit de manifester auquel vous devriez être attachés. Vous devriez être à nos côtés pour défendre le droit de manifester pacifiquement dans notre pays et d'être protégés contre les casseurs ou contre les gens qui commettent des dégradations. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est moins grave. Comme par hasard, les personnes qui ont fait ça ont quand même pris la peine de revêtir un gilet jaune. Donc, la symbolique, elle est bien claire. Alors, je vais vous dire une chose, Madame Panot. Vous devriez également être à nos côtés, ou en tout cas, nous pourrions travailler ensemble pour le climat. Nous pourrions travailler ensemble pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, parce que je crois que le spectaculaire de certaines actions vide... Le spectaculaire de certaines actions.
Il aurait été la chance que je ne l'ai pas dans les mains, putain.
Le vide de proposition.
Donc voilà, ça, c'était, ça valait le coup. C'était un bon moment.
Merci.
Salut Gabriel, t'arrives au bon moment.
La parole est à Madame Jeanine Dubié.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la ministre, la semaine qui vient de s'écouler a donné lieu à une incroyable succession de prises de position contradictoires sur l'âge de départ à la retraite. En effet, nous avons appris que vous étiez favorable, tout comme monsieur le ministre des Comptes publics, à un allongement de la durée de travail. Cela n'a pas manqué d'en surprendre plus d'un, à commencer par monsieur le haut-commissaire à la réforme des retraites, dans la mesure où le président de la République s'était engagé à maintenir l'âge de la retraite à 62 ans. La semaine dernière, monsieur le Premier ministre nous a dit être ouvert à l'idée de travailler plus longtemps pour financer la dépendance, mais sans vouloir l'inscrire dans le cadre de la réforme en cours. Comprenez qu'il nous est bien difficile de nous y retrouver après toutes ces prises de position. Mais plus encore, au-delà de savoir si oui ou non l'âge de départ à la retraite sera relevé, il nous faut en réalité nous interroger sur la pertinence même de cette question. En effet, dans le système à points vers lequel nous tendons, ce débat a-t-il encore un sens ? En réalité, je n'en suis pas certaine, dans la mesure où nous ne savons pas encore comment les droits acquis seront convertis en points. Un ensemble d'interrogations demeure sans réponse tant que cette question n'est pas tranchée. Cela se pose d'autant plus pour les femmes particulièrement touchées par les ruptures de carrière. Y aura-t-il des points supplémentaires pour les compenser ? Enfin, allons-nous vers un pilotage automatique laissant peu de place aux partenaires sociaux avec la mise en place d'une règle d'or pour assurer un équilibre permanent des comptes, ce qui ferait donc du montant des pensions une variable d'ajustement en changeant la valeur du point. Ouais. Tous ces sujets nous paraissent bien plus importants que le débat autour de l'âge de départ à la retraite.
Alors, non, le logo, c'est pas ma faute, c'est le site qui est comme ça.
Sur ce qu'envisage le gouvernement.
Fais gaffe, quand tu
merci,
montres un truc, tu ne montres pas de biais, s'il te plaît.
Je fais ce que je peux. Question de Jeanine Dubié. Jeanine Dubié, qui est donc
merci,
une question qui
Monsieur
porte sur
l'âge du
départ à la retraite
Jeanine
et les prises de position
l'objectif
de Jean-Paul Delevoye, le
haut-commissaire. La retraite est claire. Il s'agit de construire un système de retraite plus lisible, plus juste, qui donne les mêmes droits
Jeanine
à tous.
Jeanine Dubié, elle est membre de la commission des affaires sociales et secrétaire du groupe d'études sur la fin de vie.
Que vous pointiez. C'est le mandat qui a été donné au commissaire Jean-Paul Delevoye. Comme l'a rappelé le Premier ministre la semaine dernière et comme je l'ai moi-même rappelé dans cet hémicycle, le mandat n'a pas changé et ne porte pas sur la question de l'âge minimal de départ à la retraite. Dans le même temps, examinons les faits. L'allongement de l'espérance de vie est une réalité que nous devons regarder
en
face.
Que
aujourd'hui,
le gouvernement a confirmé que l'âge de la retraite ne bougerait pas.
5 millions de personnes de plus de 85 ans, ils seront 5 millions en 2050. Il s'agit là d'un changement démographique majeur, comme il y en a eu peu dans l'histoire des sociétés. Le vieillissement de la population représente un défi pour notre protection sociale et pour son financement, notamment pour notre système de santé, mais aussi pour notre système de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il nous faudra déployer des moyens financiers considérables pour la prise en charge du grand âge et pour la perte d'autonomie, pour baisser le reste à charge des familles, pour améliorer les conditions de travail dans les EHPAD et pour mieux tenir compte de la prise en charge à domicile. Ce sont là des objectifs que nous pouvons tous viser ensemble. Nous avons pris un engagement, celui de débattre en toute transparence sur la mise en place d'un système universel de prise en charge des retraites sans remettre en cause l'âge légal de départ et sur l'accompagnement de la perte d'autonomie en s'interrogeant, le cas échéant, sur une forme d'augmentation de temps travaillé. Je vous remercie.
Donc oui, je vous disais, on rappelle que le gouvernement a confirmé que l'âge de la retraite ne bougerait pas après que Agnès Buzyn elle-même ait dit qu'elle, à titre personnel, était favorable à une augmentation de l'âge de la retraite.
Madame la ministre, je souhaite associer à ma question mon collègue Côte d'Armor, Boulogne-Joncourt, dont le territoire est également concerné par ce sujet avec la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Les surveillants pénitentiaires sont un maillon essentiel de la chaîne judiciaire et veillent à ce titre à la sécurité et à la sérénité de nos concitoyens. Fortement ébranlée après l'agression récente au centre de rétention de Condé-sur-Sarthe, la profession s'est mobilisée ces dernières semaines. J'ai d'ailleurs rencontré dans mon département du Pas-de-Calais les surveillants du site de Vendin-le-Vieil, un établissement similaire à celui de Condé, ainsi qu'une délégation de surveillants de la maison d'arrêt de Béthune. Vous avez également reçu, Madame la Ministre, leur délégué le 18 mars dernier. Si les revendications sécuritaires étaient, à juste titre, les plus importantes pour les premiers, un mal-être doublé d'une inquiétude était manifeste pour les seconds. Cela s'explique essentiellement par la surpopulation carcérale dont souffre tout particulièrement Béthune avec un taux d'occupation de plus de 200%. Dans des conditions impossibles pour le personnel pénitentiaire d'assurer leur mission de manière sereine et efficace. Malheureusement, les efforts financiers prévus dans le budget tardent à se traduire dans leur quotidien. Par ailleurs, le métier de surveillant pénitentiaire souffre d'un manque d'attractivité inquiétant. Les effectifs de l'école d'Agen, l'ENAP, sont notoirement insuffisants et l'abandon en cours d'études compromet non seulement le pourvoi des nouveaux postes, mais également le seul renouvellement des postes existants. Ce métier requiert de solides qualités mentales, morales, physiques et psychologiques pour tenir jour après jour dans un environnement souvent hostile et éprouvant. Je tiens ici à saluer l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire pour leur dévouement dans ce travail souvent ingrat et leur sens de la solidarité. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser quel est le calendrier de la concrétisation d'un meilleur fonctionnement de la pénitentiaire, notamment adapté à la hausse du niveau de violence chez les détenus et leurs visiteurs ? La dotation en gilet pare-larmes est-elle programmée pour l'ensemble des surveillants pénitentiaires ? Enfin, que comptez-vous faire?
Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet.
On rappelle que des surveillants pénitentiaires avaient bloqué des prisons, notamment celle de Béthune. Béthune qui est la circonscription dans laquelle Marguerite de Préaudebert est élue.
Merci pour votre question. Elle a notamment été adjointe au maire de Béthune pendant et c'est ce qu'a souhaité faire la loi de réforme de la justice qui a été promulguée le 23 mars dernier, il y a 48 heures à peine. Nous avons apporté 4 types de réponses dans ce texte. D'abord, une échelle des peines renouvelée qui fait que nous allons dépasser le systématisme de l'enfermement comme réponse exclusive à une infraction. Ensuite, un programme immobilier pénitentiaire ambitieux. Également, un suivi et une réinsertion des détenus qui sera extrêmement volontariste. Et enfin, la valorisation des métiers pénitentiaires. Sur ce dernier sujet qui, à juste titre, est un sujet de préoccupation fort, nous apportons 3 types de réponses. Une réponse en termes de sécurité qui est essentielle, c'est l'amélioration du renseignement pénitentiaire. C'est également une évolution du régime des fouilles. Vous l'avez adopté et nous irons encore plus loin pour les visiteurs. C'est enfin une dotation en gilet pare-lames, non seulement pour quelques quartiers spécifiques, mais pour l'ensemble des surveillants pénitentiaires. Nous allons les déployer durant toute cette année civile. Nous avons également apporté des réponses en termes indemnitaires. L'année dernière, ce sont 32 millions d'euros qui ont été adoptés sur le quinquennat pour une évolution positive en matière indemnitaire. Nous poursuivons cette voie-là. Et enfin, j'apporte une réponse en termes d'attractivité du métier. Vous évoquez l'École nationale d'administration pénitentiaire. Ce sont 20 emplois supplémentaires qui ont été mis à l'école de l'administration pénitentiaire pour prendre en charge les 1100 recrutements supplémentaires qui ont été adoptés. Nous avons également, et je me suis engagée en ce sens avec les organisations syndicales, nous allons également déployer un parcours des métiers de la surveillance pénitentiaire de sorte que les surveillants n'exercent pas toujours les mêmes fonctions au long de leur carrière. Ils pourront passer du renseignement à d'autres métiers qui sont intéressants. Et enfin, je me suis engagée à doubler l'accès à la catégorie
Madame
B pour les surveillants pénitentiaires. Je crois que leur impatience n'a d'égal que mon active détermination.
Merci, Madame Lagarde.
Ça suffit. Il faut rendre le micro.
C'est un crève-cœur de vous interrompre, mais il était temps. La parole est à Monsieur Stéphane Peu.
Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Transports, j'ai 2 minutes pour pousser un coup de gueule express contre un grand projet inutile auquel les élus comme les usagers des transports en commun d'Île-de-France vous demandent de renoncer. Le Charles de Gaulle Express, ce projet scandaleux, ce train des riches, réservé à une clientèle de choix et dont même les salariés de Roissy seront exclus. Un train que les habitants de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et de Seine-Saint-Denis regarderont passer pendant qu'ils resteront
c'est
à quai.
Chez lui, hein, la Seine-Saint-Denis.
Ce train traversera la banlieue sans s'arrêter, toute porte fermée, telle une diligence sillonnant le Far West. Mais Madame la Ministre, la banlieue n'est pas une réserve d'Indiens. C'est le territoire d'hommes et de femmes qui se lèvent tôt, travaillent dur et connaissent aujourd'hui les retards et l'inconfort de lignes hors d'âge et de ce qui ressemble parfois à des wagons à bestiaux. Comment ne pas comprendre leur colère?
Il parle du Charles de Gaulle Express.
Alors qu'ils vivent chaque jour les conséquences de 25 ans de sous-financement des infrastructures de transport. Vous allez dilapider près de 2 milliards d'argent public dans un projet qui ne les concerne pas et qui va leur pourrir la vie pendant 5 années de travaux. Pour justifier l'injustifiable, certains membres du gouvernement n'hésitent pas à dire que ce projet s'impose à nous, car il serait dans le dossier de candidature de la France aux Jeux Olympiques, ce qui est totalement faux. Madame la ministre, il faut écouter les Français. Depuis des mois, dans tout le pays, ils demandent des services publics de qualité, partout et pour tous. Mais avec le Charles de Gaulle Express, vous faites le contraire. Avec le Charles de Gaulle Express, vous faites le contraire. Un service rapide et confortable pour les uns, lent et pénible pour les autres. Madame la ministre, il n'est pas trop tard pour renoncer, pour arrêter le deux poids, deux mesures, et ainsi vous emprunterez un chemin plus vertueux, plus juste et plus ambitieux pour notre pays, celui de l'égalité républicaine.
Donc merci, Stéphane Peu qui pose une question sur le Charles de Gaulle Express. Le Charles de Gaulle Express, c'est un projet
de la transition écologique et solidaire.
Merci, dont le parcours suit pas mal les lignes du RER B et qui serait direct de la gare de l'Est à la gare de Charles de Gaulle
au développement du département Charles de Gaulle. Dont vous êtes l'élu, la Seine-Saint-Denis. Alors monsieur le député, je vous le dis tout net, on ne rend pas service à notre pays en opposant les habitants d'Île-de-France et les touristes qui viennent visiter Paris et l'Île-de-France. Car le développement du tourisme à Paris et en Île-de-France, ce sont des emplois pour les habitants d'Île-de-France, y compris et surtout dans votre département de Seine-Saint-Denis ou dans les départements voisins. Et vous le savez très bien. On ne peut pas, monsieur le député, continuer indéfiniment.
Monsieur Bernalicis, calmez-vous un peu.
On ne peut pas indéfiniment, monsieur le député, faire des discours sur Paris, ville, monde, ou sur l'Île-de-France, région capitale, et refuser une bonne desserte entre Paris et l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle. C'est le bon sens même si on veut continuer à développer la bonne desserte de Paris et de l'Île-de-France. Et par ailleurs, vous savez très bien, comme vous êtes un élu d'Île-de-France de longue date, que ce projet de liaison rapide entre Paris et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ne coûtera pas un euro d'argent public, ni à l'État, ni aux collectivités locales. Il sera financé à 100% par des investisseurs qui ensuite feront payer leur investissement par les utilisateurs de cette liaison directe, sans subvention. Et vous savez aussi pertinemment que par ailleurs, nous développons les transports du quotidien en Île-de-France comme jamais. Comme jamais, près de 7 milliards d'euros d'investissement, 200 kilomètres de lignes nouvelles, à commencer par la desserte de Roissy, Charles de Gaulle et les départements voisins, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise. Vous le savez, bon, le RER B sera
l'objet d'investissement.
Et la ligne 17 de tramway qui desservira l'aéroport pour relier directement les habitants des banlieues proches pour qu'elles puissent aller travailler à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc, nous sommes dans une politique de développement des transports en commun au service de l'attractivité économique et des transports du quotidien.
Merci, monsieur.
La réponse
le
de François de Rugy. Stéphane Peu l'interrogeait sur les populations sur place. De Rugy répond.
Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer. Et j'y associe mon collègue Gaël Le Boeck. Depuis quelques jours, un certain nombre de fausses informations circulent sur le projet de loi pour une école de la confiance. On peut lire ici ou là que les écoles maternelles et élémentaires vont disparaître, tout comme leurs directeurs,
et que les classes en milieu rural seront fermées. Toutes ces informations sont fausses, mais elles circulent viralement sur les réseaux sociaux, partagées par des enseignants, des directeurs d'école ou des parents d'élèves qui s'inquiètent de leur avenir ou pour celui de leurs enfants. Aujourd'hui, certains tracts, même pas signés, sont diffusés aux portes de nos écoles afin de saboter cette réforme ou créer un climat de méfiance. Je comprends parfaitement que ces informations erronées puissent inquiéter la communauté éducative ou les maires, car nous sommes tous préoccupés par l'avenir de nos enfants et très attachés à notre école.
Ah, les
l'école
pères, par contre,
est l'un des piliers de notre République. Elle doit garantir à chaque enfant l'acquisition des savoirs fondamentaux et de nos valeurs républicaines. Nous renouons d'ailleurs avec la promesse d'égalité des chances grâce à toutes les mesures mises en place depuis 18 mois. Alors que l'un de nos objectifs est de réaffirmer l'importance de l'école maternelle, le projet de loi est détourné et la rumeur de la disparition des écoles maternelles au profit des jardins d'enfants se propage. Je regrette que l'école soit le théâtre de ces manipulations, car elle est avant tout un lieu d'ouverture critique sur le monde. Alors que les réseaux sociaux favorisent la diffusion rapide de fake news, l'école doit aider nos enfants à devenir des citoyens éclairés et à vérifier les sources et les informations. Donc, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous rassurer face à ces inquiétudes et redire que nous travaillons tous pour l'école, que l'école demeure un lieu où nos enfants doivent apprendre à discerner une fausse information d'une vraie, fiable et vérifiée.
Et quelle est sa question ? Sa question est hors, c'est Monsieur Blanquer, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, dissiper les fake news sur votre loi.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée,
les membres du groupe d'études droit de l'enfance et protection de la jeunesse notamment.
Derrière le Président, il y a une fresque qui nous invite en permanence à réfléchir sur l'enjeu de la vérité.
C'est un pas du tout préparé comme question-réponse.
Son doigt vers le haut, Aristote pointait son doigt vers le bas. Et c'est une réflexion d'une époque qui avait pour amour la recherche de la vérité. Notre époque est malheureusement trop caractérisée aujourd'hui par la désinformation et elle pourrait être qualifiée de l'ère des bobards. Parce que, en effet, au cours de la semaine dernière, nous avons vécu sur chaque article de la loi la désinformation la plus absolue sur chacun des points. Et je voudrais, grâce à votre question, en effet, rétablir quelques vérités. Et notamment sur l'école primaire, parce que l'école primaire est la priorité de ce gouvernement, fait l'objet d'augmentations budgétaires et de création de postes importantes et de mesures qui visent à la renforcer. Premier exemple, l'école maternelle. En effet, l'article 2 de la loi parle des jardins d'enfants. Mais pour dire que progressivement, nous allons avoir une transition de ces jardins d'enfants vers l'école maternelle. Et donc, c'est un renforcement de l'école maternelle qui est clairement prévu, y compris au travers de tous nos projets de formation et de soutien à l'école maternelle et d'amélioration du taux d'encadrement. Donc, dire le contraire est un bobard. Deuxième élément, le deuxième exemple extrêmement parlant. On dit que l'établissement public des savoirs fondamentaux conduirait à supprimer des écoles rurales. C'est faux, c'est un bobard, c'est l'inverse. C'est fait pour renforcer les écoles rurales, précisément,
la fresque. Non.
Pour leur donner de la masse critique.
Absolument pas.
On dit que c'est fait pour supprimer les directeurs d'école ou pour les affaiblir. C'est un bobard. C'est l'inverse qui est vrai. Nous voulons au contraire donner un statut plus fort aux directeurs d'école. Et avec la députée Cécile Rilhac, nous y travaillons, y compris pour avoir de nouvelles propositions permettant d'illustrer ça à l'occasion de la lecture devant le Sénat. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre. Et merci aussi de nous avoir rappelé que fake news, en français, ça se dit bobard. La parole est à
Cher
monsieur
Ferrand, qui est attaché
merci, monsieur le président.
À l'usage du français
s'adresse
à l'Assemblée
à monsieur
nationale.
Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur le ministre.
Temps, c'est dans la loi, mars, c'est dans l'ordonnance dans de Villers-Cotterêts, on en a parlé la semaine dernière.
On découvre l'horreur. Des corps sans tête, d'autres jetés au fond d'un puits et des amas de chair brûlées vives. 160 personnes massacrées et une cinquantaine d'autres blessés. Il y a dans ce massacre d'une barbarie inouïe, touchant principalement des femmes, des enfants et des vieillards appartenant à l'ethnie Peul, comme quelque chose de la part de l'homme qu'on a voulu détruire, pour paraphraser Malraux devant l'effroi de Dachau. Je voudrais ici, au nom de toute la représentation nationale, présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple malien tout entier.
ces négociations, comme vous le voyez. Vincent Ledoux, il est vice-président du groupe d'amitié avec le Mali notamment et co-président du groupe d'études sur la diplomatie économique avec l'Afrique.
Cette crise multidimensionnelle, conflit ethnique et foncier sur fond de terrorisme, déstabilise toute cette région. 250 000 écoliers privés d'école, 140 000 déplacés fuyant la violence, 416 000 personnes risquant d'être en phase de crise et d'urgence alimentaire dans les mois qui viennent. Après avoir appréhendé et puni les auteurs du massacre de Ouagadougou, le Mali aura besoin de l'aide internationale pour réformer son système de sécurité, car le défi majeur est de faire en sorte que les populations que l'État a le devoir de protéger aujourd'hui ne deviennent pas celles qu'il devra combattre demain. La communauté internationale devra aussi soutenir le projet malien d'assises de la paix et de la réconciliation, comme sa volonté de renforcer son dispositif militaire en parallèle d'un processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Monsieur le ministre, merci de nous préciser les actions que mène et compte mener la France, mais aussi la France et ses partenaires européens en faveur de nos amis maliens.
Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Monsieur le député Vincent Ledoux.
Vous savez, effectivement, il y a un village qui a été...
Le massacre d'Ouagadougou est insupportable.
Un village qui a été massacré avec 160 morts.
Le bilan est tragique.
Au Mali.
Plus de 150 morts.
D'Ouagadougou.
Le président du Mali s'est rendu sur place. Il a redéployé l'état-major de son armée. Il a pris la décision de faire en sorte que les milices armées soient démantelées. Je pense d'abord, en répondant à votre question, à la population de ce village, population Peul, et aux populations du centre du Mali, qui sont victimes à la fois du mouvement terroriste et des affrontements de milices.
Les chasseurs Dogon, qui est donc une autre ethnie malienne,
et
qui...
Comme vous pouvez l'imaginer... Ces faits sont susceptibles d'être poursuivis dans le cadre de la Cour pénale internationale.
Les Peuls, en l'occurrence. Les Peuls, vous savez, c'est un peuple qui est réparti entre le Mali et...
La Cour pénale internationale a délégué une mission qui va se rendre au Mali cette semaine pour identifier les faits.
J'ai peur de dire des bêtises, mais d'autres pays autour, quoi.
Il importe de prendre des mesures. Certaines sont à l'initiative des autorités maliennes, en particulier de renforcer la présence de l'État au centre du Mali, de l'État et des services publics et de la sécurité. Et la France est prête à aider les autorités maliennes dans cette orientation-là, parce que jusqu'à présent, on parlait surtout du Nord Mali. Là, il s'agit d'affrontements ethniques au centre du Mali, et il importe que l'autorité de l'État puisse se faire sentir. Il importe aussi que la MINUSMA puisse accomplir totalement sa tâche avec le soutien de la communauté internationale, et que les missions de protection de la population, au-delà même de la sécurisation et de la mise en œuvre,
c'est la force de stabilisation
assurée par la MINUSMA. Et enfin, monsieur le député, je présiderai après-demain le Conseil de sécurité à New York, avec pour centre de la question malienne dans toutes ses dimensions, en présence du Premier ministre malien.
Et donc les Peuls, qui sont l'ethnie qui a été...
La parole est à monsieur Sacha Houlier.
Ils sont nombreux, notamment au Nigeria, au Niger, dans le nord du Cameroun, au Mali, au Sénégal et en Guinée. Ils sont minoritaires partout, sauf en Guinée.
Et j'y associe bien volontiers mon collègue Stéphane
Dessé, de la population,
avec lequel nous étions ce matin à l'instance nationale du supporterisme. Et c'est de ce mouvement méconnu dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce mouvement, il est né en 1984 en France, dans le virage sud de l'Olympique de Marseille. Il avait pour nom Commando Ultra. Il s'inspirait directement des COP liverpooliens ou des courvas milanaises. Cependant, les relations de ce mouvement avec les pouvoirs publics, elles se sont mal passées. Elles se sont mal passées parce qu'elles se sont nouées initialement à l'occasion de tragédies. Elles portent le nom à l'étranger de Heysel ou de Heilbronn, et en France de Julien Kemner en 2006 ou de Yann Laurence en 2010. C'était à la porte de Saint-Cloud.
Il a perdu la moitié de l'Assemblée et le streamer d'Acropolis.
À réglementer, parfois dans l'urgence, à l'occasion d'une loi antiterroriste, parfois dans l'excès, à l'occasion d'une loi sur la sécurité intérieure ou d'une loi portant dialogue avec les supporters ou lutte contre le hooliganisme. Et parce que cette législation, elle porte le nom aujourd'hui d'interdiction administrative ou judiciaire de stade, d'interdiction de déplacement, d'interdiction d'usage de fumigène, eh bien, elle crée aujourd'hui des crispations qu'il nous faut dépasser.
Merci Pouzou, parce que...
volontiers, parlementaire et gouvernement, j'espère qu'un individu violent n'a rien à faire dans une tribune, qu'un individu homophobe, sexiste, qu'un individu antisémite n'a rien à y faire non plus. Mais les lois ont leurs limites. La durée des interdictions administratives de stade interroge. Le cumul avec l'interdiction judiciaire aussi. L'accès aux juges nous interroge encore. Le fait que les supporters soient interdits de se déplacer altère le spectacle et l'interdiction d'usage des fumigènes est, à mon sens, excessif. Et parce qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone, nous avons demandé à ce qu'une commission parlementaire soit réunie, qu'elle réunisse la commission des lois et la commission des affaires culturelles et éducatives pour traiter de ces questions. Naturellement, il est méconnu ce mouvement, mais il n'est pas méconnu de vous. Vous avez ce matin réuni l'instance nationale du supporterisme, vous avez avancé des pistes pour les supporters. Je serais reconnaissant, Madame la Ministre, si vous pourriez nous éclairer sur ce sujet.
Merci, Monsieur le député.
Okay, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en gros, c'est une question sur la régulation des mouvements violents de supporters dans les stades, si j'ai bien compris.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Sacha Houlier, qui est un ancien vice-président de l'Assemblée nationale.
Sacha Houlier, merci pour votre question.
Il a été pendant
j'ai eu l'occasion ce week-end de m'exprimer sur les chants entendus à Paris, et je suis consciente qu'il n'y en a pas qu'à Paris, et pas que dans ce stade, mais bien au sein d'autres clubs. Pourquoi et comment ces propos intolérables dans la société d'aujourd'hui peuvent-ils être tolérés dans les stades sous couvert de supporterisme? Ce sont des représentations contre lesquelles on doit se battre dans le sport comme ailleurs. Ce sont des images et des chants où la victoire, la force, la réussite sont associées à la masculinité, où la faiblesse, l'échec et la défaite sont liés à la féminité et par extension à l'homosexualité. Pour autant, je suis consciente, comme vous, que les supporters méritent mieux aujourd'hui. Ils font partie intégrante du spectacle sportif, du résultat sportif. Ils font partie du sport. Nous avons réuni ce matin ensemble, Monsieur Houlier, avec le député Testé également, l'instance nationale du supporterisme. Je veux aujourd'hui améliorer ses moyens d'action et sa visibilité. Depuis 2 ans et sa création par Monsieur Braillard, elle a permis un travail collaboratif et elle a servi à apaiser pour avancer. Avancer sur des sujets portés par les associations de supporters elles-mêmes. Un agrément ministériel qui permettra un meilleur dialogue avec les autorités, la Ligue et les clubs. Plus de responsabilités pour les clubs qui doivent véritablement se saisir d'un service proposé à leurs associations de supporters. Les tribunes debout expérimentées sur certains de vos territoires, à Lens, Saint-Étienne, Sochaux, Amiens, avec succès et qui vont pouvoir être généralisés, et 2 mesures nouvelles qui sont mises aujourd'hui en discussion sur les fumigènes et le déplacement des supporters.
Le supporterisme, ça existe? Oui, apparemment, il existe l'instance nationale du supporterisme.
Au regard des enjeux actuels du supporterisme,
qui est,
la mobilisation des Français
et des
spectateurs
du monde du
est un enjeu de grande importance pour notre pays qui va accueillir les Jeux dans 5 ans.
Il s'agit du ministère des Sports, les forces de l'ordre, des supporters.
Pour nos enfants et nos jeunes, c'est une étape majeure de ce processus et je m'y engage pleinement. Merci.
Merci, Madame la Ministre.
Et donc, évidemment, tout ça, cet échange s'inscrit dans...
pour 15 minutes.
Merci Richard. Évidemment, ces échanges s'inscrivent dans le cadre de ce qu'a dit Roxane Maracineanu il y a quelques jours où elle a fait remarquer, je ne sais pas si elle l'a tweeté ou si elle l'a dit ou je ne sais plus, mais en gros qu'elle trouvait que les chants dans les stades étaient particulièrement violents et discriminants. Roxana, pardon, j'ai dit Roxane.
C'est pareil.
Donc voilà, c'est la fin de en liaison avec le cronambourisme. Merci Philem. C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que ça vous a plu. Il y a plus d'animation dans un épisode de l'inspecteur Derrick que dans cette séance de QAG. Et oui, toutes les séances de QAG ne se valent pas, Gérard. Il y en a qui sont plus mouvementées que d'autres, certaines qui sont plus fun que d'autres. Celle-là n'était pas la plus fun, on va pas se le cacher. Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Que vous dire? Déjà, on va remercier les bénévoles qui ont aidé à préparer les fiches d'aujourd'hui. Un grand merci à Tristenza, Perceval et Arcturus d'avoir aidé à préparer les fiches de la séance d'aujourd'hui. Fiches qui vous ont été communiquées dans le chat si vous souhaitez avoir bien plus d'infos sur tous les députés, les questions, les réponses, etc. Non, c'est pas pareil, je vous appelle pas Raphaëlla et François, ça vous plaît pas. Oui, pardon, Xan, ça va, excuse-nous, c'est juste une erreur. Hein,
c'est une blague. C'est pas très grave. Une blague.
La régie pète un câble, la régie est fatiguée.
Une blague.
Tu vas fermer ta grande gueule, toi. Donc voilà, non, je sais plus ce que je disais. Si, je remercie les bénévoles, merci à vous. Que vous dire d'autre ? Vous dire que d'ici 45 minutes, vous allez pouvoir retrouver Question au sénateur avec ce soir Jean, je crois, c'est ça ? C'est Jean qui présente ce soir les questions au sénateur ?
C'est demain,
c'est demain, demain putain, mardi, oui, on est mardi. Question au sénateur demain avec Esther Benbassa. Vous pouvez aller sur Twitter poser vos questions à Esther Benbassa en répondant au tweet de Jean Massier. Oui, c'est demain. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était ce soir. Oh non, pas Esther Benbassa. Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas vous ou ? Vous pourrez lui poser vos questions. Esther Benbassa, qui est sénatrice écologiste.
Il y aura des questions sur Benalla, peut-être.
Et des questions sur Benalla, peut-être. Des questions sur Joachim Sonforgé, peut-être. Et voilà. Et que vous dire d'autre ? Bah non, je ne sais pas. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne sur cette séance de questions d'actualité au gouvernement, n'hésitez pas, c'est le moment. Si c'est Esther Benbassa, je lui demanderai s'il accepte toujours l'idée du couscous avec Joachim Sonforgé. Tu peux, hein, Gérard, je suis sûr que Jean lui posera la question. Vous pouvez lui demander si elle a écouté le sublime morceau de Joachim Sonforgé avec, comment il s'appelle, avec Doc Gynéco. Voilà. Avez-vous parlé de l'article 13 ? Alors, on a évoqué un peu la question, Gabriel Milquier, en début d'émission. Je t'invite à regarder ça. Tout le chat ne veut parler que de Joachim Sonforgé, effectivement. C'est le risque, Samy, mais bon, je suis sûr que Jean saura diriger les discussions sur d'autres sujets, parce que il y a des sujets intéressants à évoquer plutôt que juste ce genre de polémique un peu voilà quoi. voilà. C'est quoi l'article 13 ? L'article 13, c'est le 13e article d'une directive européenne qui porte sur les droits d'auteur, Louisette, et qui... donc une directive, pour rappel, c'est une décision législative européenne, donc un machin qui est un peu assimilable à une loi, on va dire, qui a pour objet de forcer les pays à faire entrer dans leur législation nationale les dispositions qui sont dans la directive. On appelle ça transposer dans la législation nationale ce qu'il y a dans la directive. Et donc, en l'occurrence, cette directive-là, cet article 13-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, de ce que m'a dit Sylvain, parce que, à nouveau, il maîtrise mieux le sujet que moi, qu'est-ce qu'il y a ?
Non, j'allais m'énerver, mais c'est pas du tout contre toi.
D'accord.
Continue, excuse-moi.
Le article 13, article avant l'article 14 et avant l'article 12. Merci les gars, heureusement que vous êtes là. Et donc cet article 13, d'après Sylvain, ce qu'il dit, c'est que avant, en tout cas en France, quand t'es un YouTuber qui poste une vidéo, t'es responsable des utilisations de... si tu utilises... Je vais recommencer. Si tu utilises, j'en sais rien, un jingle qui n'est pas libre de droit dans ta vidéo, eh bien, c'est toi qui es responsable de cette utilisation-là. Et voilà. Et l'article 13, d'après ce que m'a expliqué Sylvain, fait passer la responsabilité dans les mains des plateformes qui doivent s'assurer que... le respect du droit, enfin bref, vous avez compris, je suis fatigué, tu es responsable du contenu, voilà, merci Cladus, merci Sylvain. Le problème, c'est que les pays ne sont pas obligés. Si, tu dois transposer, Salvagraph. Les plateformes vont être contentes de devoir tout vérifier. C'est effectivement ce qu'elles mettaient dans leur communication, dans leur lobbying. Mais bon, en même temps, c'est pas comme si ces plateformes n'avaient pas le moyen, quoi. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Je vous avoue que c'est un sujet...
YouTube, t'as quand même des millions de vidéos à checker chaque jour. En fait, le problème, justement, avec YouTube, pour l'exemple de YouTube, c'est qu'en fait... il y a un risque très très fort qu'on ait une sorte, parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a un robot qui analyse toutes les vidéos sur YouTube pour voir justement s'il y a des problèmes de droit, etc. Et il y a un risque que le robot soit renforcé à tel point que quasiment plus rien ne passe. C'est-à-dire que littéralement, avant, c'était vraiment que les musiques en général et quelques images de films, etc., qui étaient bloquées. Maintenant, littéralement, tu pourrais avoir dans ton décor, si là, dans le décor, il y a un truc d'une marque, tu peux faire bloquer toute ta vidéo juste pour ça, en fait. Et du coup, il y a un risque d'avoir une sorte de robot, machine un peu nazi, on pourrait dire, qui vraiment laisse rien passer et qui pourrait te faire disparaître, quoi.
Alors ça, c'est effectivement l'argumentation des plateformes. Le contre-argument d'économiste que j'ai envie de te donner, c'est que du coup, ça signifierait que les créateurs n'ont plus de moyens de se rémunérer puisque leurs vidéos seraient censurées. Et donc, moi, mon contre-argument d'économiste, c'est de te dire, ouais, mais sauf que du coup, Facebook, YouTube, etc. ne va pas faire ça parce que sinon les créateurs ne posteront plus sur YouTube.
Oui, bien sûr. Ça peut arriver, mais c'est pas dit que c'est ce qui arrivera.
Mais que donc, mais bien sûr, coup, l'incitation derrière pour YouTube, par exemple, sera de concevoir un robot plus intelligent ou d'avoir les équipes qu'il faut pour. Enfin voilà. Bon, bref.
Tout est possible.
Si vous voulez plus de détails sur ce sujet-là, je vous invite à aller voir l'émission qui avait été faite sur le sujet par... C'était Stupid Economics qui avait...
Oui, il avait fait une émission là-dessus.
Qu'on avait fait avec lui et divers invités youtubeurs, enfin créateurs sur Internet. Vous aurez des détails bien plus précis que tout ce qu'on peut vous en dire. En quoi la Tour Eiffel est sous droit à l'image ? Alors la Tour Eiffel, non, puisque l'œuvre a plus de 70 ans plus enfin 70 ans après le décès du créateur de l'œuvre. En revanche, les éclairages de la Tour Eiffel, eux, sont encore couverts par le droit d'auteur. Et donc du coup, si tu prends une photo de la Tour Eiffel de nuit, en principe, tu ne peux pas l'utiliser. À titre commercial. Surtout, ce qu'il va convenir de savoir, c'est quel est le texte final qui a été voté, effectivement, Sylvain, puisque comme ça a été expliqué dans divers endroits, l'article 13 dans la directive, jusqu'à maintenant, évidemment, il devait avoir une rédaction finale, mais jusqu'à maintenant, faisait l'objet de diverses rédactions qui étaient proposées par les uns et par les autres. Et donc, du coup, c'était des discussions, mais on ne savait pas vraiment sur quelle version du texte on discutait, etc., etc. Et le robot YouTube, il se fiche aussi totalement des partenariats, effectivement, Xan. Voilà. Voilà, bon. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec. Quand on n'a pas de chat. Ça n'a rien à voir avec la séance de questions d'actualité de cette semaine. Il nous reste, allez, on va dire, 10 petites minutes. Donc, si vous voulez qu'on. Pour rappel, les t-shirts de François sont une œuvre d'art contemporain couverte par le droit d'auteur. Toute capture d'écran donne une obligation des royalties pour François. Effectivement, Perceval, c'est bien de me trouver des moyens de manger. Merci. Mais comment ça se fait qu'on vote quelque chose sans avoir la version finale ? Non, Iléna, c'est pas ça. C'est quand un texte est proposé, il y a des rédactions différentes. C'est comme à l'Assemblée, enfin c'est comme au Parlement français. Il y a des versions différentes qui peuvent exister entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les votes ont lieu pour savoir sur quelle version, enfin pour quelle version on tranche. Voilà. Voilà. Je vois pas où il y a des droits d'auteur sur un bâtiment public, même privé d'ailleurs, ça fait partie du paysage. Non, c'est pas ça la question. C'est... Enfin oui, ça fait partie du paysage, Louisette, et c'est pas tu dois payer quand tu vois le bâtiment. C'est est-ce que tu peux... Enfin, ça reste une œuvre. Par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étudiais, moi, au bâtiment de Tolbiac, dans le 13e arrondissement de Paris, qui est un bâtiment qui a trois grands balcons. Parce qu'en gros, c'est un bâtiment en trois parties, il y a trois énormes balcons, et avec les associations étudiantes, on voulait que ces balcons soient ouverts et que les gens puissent aller s'aérer sur ces balcons. Et l'administration de l'université nous expliquait que non, ça ne pouvait pas être possible pour des raisons de sécurité, parce que des gens, il y a très longtemps, s'étaient jetés du haut de ces balcons. Et donc, du coup, on répondait en disant « installons des grillages ou des vitres pour éviter que les gens puissent se jeter du haut de ces balcons ». Et là, la réponse, l'administration nous disait « on ne sait pas pourquoi ça n'a jamais été envisagé, on va chercher ». Et on s'était retrouvés contacter les architectes du bâtiment qui nous avaient expliqué qu'eux étaient contre le fait de mettre des vitres à ces endroits-là et qu'effectivement, après on est allé chercher, regarder dans le droit, effectivement ils pouvaient s'y autoriser parce qu'ils avaient un droit sur le bâtiment de la même manière que quand bien même tu peins un tableau et tu le vends, et en principe, la personne qui l'a acheté ne peut pas faire ce qu'elle veut de ce tableau-là. Tu gardes une partie des droits sur ce tableau qui font que, par exemple, on peut pas... on peut pas modifier ton œuvre derrière sans ton accord, etc., etc. Voilà. Si tu te prends devant le bâtiment, tu peux. Si tu prends le bâtiment, tu peux risquer qu'on te demande des droits d'auteur. Non, en gros, c'est pour l'exemple de la Tour Eiffel ou pour l'exemple de Tolbiac, par exemple. Alors Tolbiac, je sais pas, peut-être que c'est différent, mais bon, pour l'exemple de la Tour Eiffel, de nuit, si vous vendez. Vous êtes photographe, vous faites une photo de Paris de nuit avec la Tour Eiffel illuminée dessus, eh bien vous n'avez pas le droit de vendre cette photo-là, sauf accord, etc. Machin, mais en principe, vous n'avez pas le droit de vendre cette photo parce que... Ou alors, il faut peut-être payer des royalties, j'en sais rien, je ne suis pas vraiment expert sur la question de propriété intellectuelle. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser librement la photo. Et d'en faire n'importe quoi. Si vous faites une utilisation commerciale de cette photo, vous n'avez pas le droit d'en faire n'importe quoi parce qu'il y a des droits sur l'œuvre d'art qui est en l'occurrence l'éclairage de la Tour Eiffel. Et il y avait des droits sur la Tour Eiffel avant, c'est juste que ces droits sont éteints maintenant parce que les mecs qui ont fait la Tour Eiffel, que ce soit les architectes, je sais pas, les maîtres d'œuvre, j'en sais rien, collectivement les gars qui ont fait la Tour Eiffel, sont tous morts et 70 ans sont passés depuis leur mort. Qui a les droits de la Tour Eiffel de nuit? J'imagine les artistes qui ont conçu les éclairages de la Tour Eiffel. Parce qu'en fait, à nouveau, c'est pas la Tour Eiffel de nuit, c'est en fait les éclairages de la Tour Eiffel. Donc si vous prenez une photo de la Tour Eiffel de nuit quand elle n'est pas éclairée, là, c'est bon, ça passe. Enfin, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Arcturus? Attendez, je remonte un peu. Chez nous, les architectes ont refusé de mettre des stores dans les salles de classe parce que ça dénaturait leur œuvre. Bah voilà, t'es sur le même genre de problématique. C'est chiant, les architectes qui oublient aussi que les bâtiments sont des lieux de vie avant d'être une œuvre d'art. Effectivement, il y avait dans le même genre l'exemple du bâtiment à Londres, qui était un grand building avec une forme...
Incurvé,
mais du coup c'est convexe ou concave, je dirais plutôt. Forme incurvée qui du coup avait pour effet de concentrer tous les rayons de lumière du soleil qui se concentraient en un point et ça transformait le truc en un rayon comme dans James Bond, quoi, un machin qui faisait fondre tout ce qui était garé devant et qui du coup avait fait fondre, je crois, une bagnole qui s'était garée en face. Et il me semble qu'un type était venu pour la blague, avait cassé un œuf sur un capot de voiture pour le faire cuire sur le capot de la voiture. Et ça faisait, un effet de loupe géante d'une certaine manière, Philem, effectivement. Mais là, les architectes avaient été, enfin, les architectes, je sais pas, les gens qui posaient le bâtiment, les architectes, j'en sais rien, avaient été obligés de remplacer ces vitres par des vitres en verre sablé, histoire que ça n'ait plus cet effet de concentration de la lumière, quoi. Il n'y a pas des descendants de Gustave Eiffel qui peuvent réclamer les droits. Et bien alors, sur ce sujet-là, Xan, donc la réponse est oui dans une certaine fenêtre de temps qui est de 70 ans après la mort. Alors si c'est la même chose que pour les œuvres musicales et les bouquins, etc. La fenêtre, c'est 70 ans après le décès des derniers ayants droit, des derniers auteurs. Pendant ce délai de 70 ans après le décès des derniers auteurs, les ayants droit peuvent... réclamer les droits faire valoir leurs droits sur l'œuvre. Et après les 70 ans, les droits sont éteints. Et à ce sujet-là, je t'invite à chercher... c'était évidemment... J'ai oublié. Il y a un artiste. Ravel, c'est le Boléro de Ravel. Je vais chercher l'article. Ayant droit, Boléro, Ravel. Le Boléro de Ravel, les droits du Boléro de Ravel. Alors je ne sais pas si c'est exactement cet article-là, donc je vous mets celui-ci, c'est le premier que je trouve. Je vous mets le premier lien que j'ai trouvé sur le Boléro de Ravel. Je ne sais pas ce que vaut ce lien, mais c'est le premier que j'ai trouvé, sinon cherchez, voilà. Le Boléro de Ravel, où en gros les droits étaient passés de personne en personne en personne en personne en personne, ce qui fait qu'à la fin les gens qui étaient ayant droit du Boléro de Ravel, c'était genre le deuxième remariage de la femme du chauffeur de Maurice Ravel, je crois, un plan comme ça, un truc abracadabrantesque. Je ne vais pas relire l'article devant vous, parce que ça peut être très fun à regarder, mais voilà, je vous invite à aller le lire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec Maurice Ravel, qui était ayant droit des droits du boléro de Ravel, qui sont évidemment énormes, et des droits qui allaient s'éteindre d'ici quelques années, ou peut-être maintenant que c'est le cas, mais d'ici quelques années, on va dire. Mais un autre ayant droit s'était fait connaître en disant, bah, écoutez, y a quelqu'un d'autre qui a participé à l'élaboration du boléro de Ravel. Tu t'ennuies ?
Non, j'ai mal.
Il y a quelqu'un d'autre qui a participé à l'élaboration du boléro de Ravel, donc il faut partager les royalties, quoi, les droits. Et les ayants droit du boléro de Ravel avaient le choix, en gros, entre soit partager les droits, mais qui durent beaucoup plus longtemps, parce que le nouvel ayant droit était mort bien plus tard, enfin, le nouvel auteur présumé, etc., machin, était mort bien plus tard. Donc c'était soit partager les droits, soit qu'ils s'éteignent d'ici quelques années, genre en 2020, 2021, 2022, un truc comme ça. Mais c'était complètement bordélique et assez rigolo à lire, donc je vous invite à aller lire ça. Je ne sais pas si c'est l'article que je vous ai mis dans le chat ou un autre, mais sinon vous tapez dans votre moteur de recherche préféré droit Boléro de Ravel, et je suis sûr que vous trouverez des trucs très intéressants. Bref, il est 16h30, je vous propose qu'on s'oriente vers une fin d'émission. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de questions d'actualité au gouvernement. On vous dit à demain 14h30 où on se retrouve pour une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Puis questions sénateurs, puis Jean après-demain, puis Adrien après-demain.
Non.
Non ?
Oui, c'est Adrien après-demain et...
Et effectivement, une émission spéciale avec Public Sénat jeudi soir. C'est ça que tu voulais me faire dire, c'est ça ? Merci. Dialogue citoyen, comme on avait fait il y a un peu moins d'un mois maintenant, où Public Sénat organisait un débat entre des sénateurs et des citoyens sur leur plateau, avec Jean qui, toutes les demi-heures, venait donner vos avis sur le débat qui s'était tenu, et moi qui commentais en parallèle sur Acropolis. Eh bien, nous recommencerons cet exercice-là, mais cette fois-ci, non pas avec Jean en plateau, mais avec Hugo Travers de la chaîne Hugo Décrypte, qui sera en plateau pour faire remonter vos avis dans le chat. Et donc c'est jeudi, donc rejoignez-nous jeudi sur les coups de 18h dans ces eaux-là. On recommencera ça. Par ailleurs, effectivement, Apéropolis, début avril à Nantes, le 13 avril, le week-end du 13 avril à Nantes. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous faire coucou. Mais c'est complètement con, ça fait partie du paysage parisien, la Tour Eiffel, qui ait fait son éclairage. Oui, mais Louisette, l'éclairage reste une œuvre d'art en elle-même, une création artistique, et c'est pas le fait de voir enfin, personne t'empêche de voir les lumières de la Tour Eiffel ou de voir la Tour Eiffel elle-même, c'est juste d'en faire une utilisation commerciale sur une carte postale. Si tu as les lumières de la Tour Eiffel de Paris, tu dois payer des droits, c'est tout. Donc voilà. Et donc, je vous disais quoi ? Je vous disais, oui, Apéropolis, le week-end du 13 avril. Et voilà, et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit raid de fin de stream ?
Oui.
Oui, très bien.
On va faire un raid sur Luthi.
Eh bien, faisons un raid sur Luthi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous vos subs, nombreux subs aujourd'hui. J'espère que j'en ai raté aucun. Je lis les deux, trois derniers au cas où. Oligdi, Zorou et Sam et Samva, c'est les trois derniers que j'ai dans ma liste. Merci à tous vos soutiens. Merci de donner du pognon pour faire vivre Acropolis. Demain 14h30, petit raid sur Luthi. Bisous, au revoir. Ciao.